Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On est là, on est bien, c'est magnifique. Ça va être magnifique comme émission aujourd'hui encore. On va être bien accompagné comme tous les jours. En votre compagnie, on se régale, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Alors appelez vos amis, on sera encore plus. Voilà, on sera encore plus pour bien finir l'année avant l'Euro. Il y a beaucoup d'actu, comme d'habitude. Il y a des thèmes magnifiques, concoctés comme tous les jours par Jean-Louis Tour. Salut Jean-Louis.
Salut Jérôme, salut tout le monde.
Ah Jean-Louis.
Ouais, en pleine forme. Ah, quelle fin de saison, quel régal.
On a de la chance, on a du peps, mais on a de la chance parce qu'on a pris les mecs qui en avaient encore le plus que nous. C'est Jean-Michel Larquet. Salut Jean-Mi.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir.
T'as vu la pression? Hop, tout de suite, il dit bon, salut, bonsoir Captain. Avec du peps. Salut Steve Savidan avec nous.
Salut tout le monde.
Ah,
salut Jérôme, salut Jean-Louis, salut Jean-Michel. Ça va, impeccable.
Alors ce soir, Roten sans flamme autour de la polémique Mohamed Camara, joueur de Monaco, qui a caché les symboles de soutien à la journée de lutte contre l'homophobie le week-end dernier.
C'est possible ça encore.
Aucune sanction n'a été prise par son club depuis, même s'il y a des déclarations d'intention, mais pour l'instant, rien de clair. Les clubs sont-ils trop laxistes sur ces sujets? Vous pouvez nous appeler au 32-16, on fait le débat à 19h, ne ratez pas ça. À 18h30, le grand jugement continue. Tous les jours, dans Roten sans flamme, on passe en revue un acteur de la saison de l'Olympique de Marseille, après avoir acquitté Franck McCourt et Jean-Louis Gasset. On va ouvrir le dossier Jonathan Clauss ce soir.
Ah mais c'est une blague.
Sa saison est-elle ratée ou a-t-il des circonstances atténuantes? Rendez-vous tout à l'heure, la cour le décidera. À 18h45, il y aura une exclue dans le casar enchaîné. L'appel de Jim Radcliffe à Bruno Genesio pour venir entraîner Nice. Et puis la roue RMC est toujours là. Elle est prête à tourner et vous offrir jusqu'à 20 000 euros. Pour cela, soyez très attentifs aux trompettes. Dès que vous les entendez,
on entend les trompettes de 18h à 20h tous les jours.
Que les trompettes, ça c'est pas ce
Ah bah ça tombe bien, tu parles au moment où on parle des trompettes, Steve.
Le chef des trompettes. Là.
Dès que vous entendez les trompettes, et je précise que c'est l'instrument de musique, vous envoyez roue par SMS au 732-16. Ça peut tomber vraiment à n'importe quel moment.
Sur une analyse de Steve.
Roue au 732-16 pour gagner peut-être jusqu'à 20 000 euros. Mais tout de suite, les heures sombres arrivent en Ligue 1.
Ne m'appelez plus jamais.
Voilà, c'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines.
Je sais que c'est dur à entendre. La Ligue 1, ça ne vaut rien.
Pourquoi pas la frappe d'Amin Harit qui passe au-dessus de la cage.
La France, elle m'a laissé tomber.
Et ce ballon coupé dans les 6 mètres qui vient mourir à côté du poteau.
On n'était pas loin de l'ennui sur la fin de la première période.
Oh, l'énorme but de Jérôme Rotin!
Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde.
On va peut-être revivre ces années terribles où on s'enflammait sur un but de Jérôme Roten comme une finale de Coupe du Monde.
Déjà, tu retires ça tout de suite.
Époque-là.
Tu retires ça tout de suite.
Qui nous pend au nez maintenant.
Il y avait un grand
but de Roten contre Marichez commenté comme une finale de Coupe du Monde.
Ah bah ouais,
c'était ça la Ligue 1 à l'époque. Et peut-être qu'après le départ de Mbappé et de certaines grandes
après,
stars.
On a vu des buts de 35 mètres comme ça en pleine lucarne cette année.
Non, mais même
je sais pas. Est-ce que
t'as pas fait... 35 mètres en pleine lucarne.
Comment il a pu
c'est quoi regardez,
100 genre, mètres encore.
35 mètres.
Oui, 35 mètres.
Tu sais combien ça fait 35
Toi, tu jouais dans Olivier et
écoute, je pense 35 mètres le savoir un peu mieux que toi, Jean-Louis. Tu vois, tous les matins à l'âge de 5 ans, j'étais sur le terrain.
Mesurais pas pour autant.
Excuse-moi, mais on se rend compte des distances quand même, non?
Ah bon?
Ouais.
T'avais un appareil pour mesurer et tout.
Je te renvoie. De toute façon, peu importe. Et le but était incroyable. Bon, c'est plus beau de l'histoire de la Ligue 1.
Sinon, on parle de la Ligue 1. Je commence pas l'émission.
Bah, si.
But Roten Marichez.
Regarde.
On va le revoir.
Regarde, excentré côté gauche.
Jean-Michel, redonne-moi, s'il te plaît.
Non.
La taille du terrain. La taille de la surface de réparation.
Pas la taille des ballons, pas le poids des ballons. Sinon, j'appelle le.
La surface de réparation, 16,50 m.
D'accord.
Non, mais il pense 35 mètres, mais l'année prochaine, il le frappera de 40 mètres. Chaque année, il gagne 5 mètres.
Tu tapes plus beau but de la Ligue 1, il va sortir.
C'est introuvable, ça arrive à page 50. Bon, allez, c'est pas grave, c'est introuvable.
Tu vas pas
faire l'émission sur le but de Jérôme Rotten. Il a marqué un dans sa carrière.
Oh, que son émission, Michel, quand même.
Pas toi.
Oui, d'accord, mais enfin, bon, c'est...
Pas toi, pas toi qui a commenté les
exploits. C'est désagréable pour ceux qui ont marqué beaucoup de buts.
Pas toi, avec le respect que j'ai pour toi, tu peux pas me parler comme ça de ma personne. Bon.
Alors, Jérôme, je viens de taper plus beau but de la Ligue 1, t'es même pas dans les 100 premiers.
Ouais. Ça tombait, on sera deux comme ça. Bon,
alors,
allez, vas-y.
Ah non. La Ligue 1. Ah non. Donc, alors, pourquoi on parle de tout ça? Parce que, on va peut-être revenir à une période où il y avait moins de stars en Ligue 1. L'époque des Rotten, des Savignan. Non, on n'y retourne pas. Donc, puisqu'il va y avoir le départ de Mbappé. Et qu'en plus du départ de Mbappé, on doit se préparer à ce que certaines stars quittent la Ligue 1. Ça arrive tous les ans, donc dans les clubs un peu plus moyens. Et puis il y a toujours autant d'incertitudes autour des droits télé. Il y a toujours pas de diffuseur pour la saison prochaine. Là, le message a été envoyé au club: soyez prudent dans votre budget prévisionnel par la DNCG.
Anticipé, ouais.
Voilà, partez sur de la fourchette basse. Hein. Faites comme si.
D'accord. Moi, le président, je me suis servi au passage, mais vous allez tirer la langue.
Là, c'est le président de la DNCG. Oui. Qui dit ça, pas Vincent Labrune.
Ça veut dire que ceux qui descendent sportivement cette année ou qui sont maintenus ne sont pas sûrs d'évoluer dans leur division l'année prochaine. Parce que si la DNCG, Jean-Michel, si la DNCG avertit déjà, ça veut dire qu'il va y avoir de la casse au niveau administratif.
Ouais, enfin, il faut quand même qu'il y ait 18 équipes en première division
Jean-Michel, on est sur BFM Business là. Vas-y.
Non, mais c'est bien ce que. Mais non, mais
à un moment, il faut être
logique. Si la DNCG avertit qu'il va
y avoir. Vas-y, Steve Le Chypre.
Jean-Michel, à un moment donné, sois sérieux aussi. C'est qu'à un moment donné, si la DNCG. Ça veut dire qu'il va y avoir des rétrogradations administratives et honnêtement, que ça soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, il y a beaucoup de clubs qui sont fébriles pour le budget.
Pour l'instant,
on n'en est pas là.
Pour qu'il faut d'abord que les gens passent devant la DNCG et là tout va être reporté à cause des droits télé de façon. Ouais. Mais bon, bref, les droits télé, c'est le problème.
On n'en est pas là.
Le départ des stars, c'est un autre problème. Est-ce qu'on doit se préparer à des années noires en Ligue 1? 32-16 pour débattre, Jérôme.
Écoute, je vais te répondre que non, Jean-Louis, parce que la Ligue 1, elle a toujours existé, star ou pas star, il y a toujours des joueurs qui ont été attractifs, qui ont été spectaculaires, et c'est le lot de n'importe quel championnat, et de notre championnat en particulier. On parle du championnat de France. On n'a pas attendu l'arrivée des Qataris pour avoir des stars dans notre championnat, déjà, c'est la première chose. Parce que là, pour reparler des stars, les stars, elles existent surtout...
Avant les Qataris ?
Comment ?
Donne-moi des grosses stars internationales avant les Qataris.
Mais il y en a toujours eu. Je vais pas prendre des exemples. Il y a eu des champions du monde qui ont évolué en Ligue 1. Il y a eu. Bon, il était jeune, Rodi, mais
c'était pas des stars à l'époque.
Ça dépend le mot de star. À Lyon, il y avait des grands joueurs. Tu vois, des grands joueurs.
Des stars. Ibrahimovic, Beckham, Neymar, Messi, Mbappé.
Ça, c'est les années Qataris. On est d'accord.
C'est ce que je te dis.
Donc,
avant les Qataris, est-ce qu'il y a eu des grandes stars internationales?
Il y a eu des grands joueurs. Et pour moi, grandes stars, ça dépend ce que tu mets en place. C'est toujours pareil. L'OM des années 90, il y a eu après les années Paris Saint-Germain. Quand le PSG a dominé. Après, il y a eu Monaco, et très souvent à Monaco, il y a eu des stars qui ont joué à Monaco. Oui, c'est vrai. À Marseille, il y a toujours eu des joueurs qui se sont révélés. Alors peut-être qu'ils sont devenus encore plus stars après. Mais sur le moment, sur le moment, entre le mot star, c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que le mot star, on l'emploie surtout depuis un peu plus de 10 ans. Et depuis 10 ans, l'arrivée des Qataris, en effet, ils ont pris les meilleurs joueurs à l'étranger. Et ils ont réussi à les ramener dans notre championnat de France. Ça, c'est la réalité. C'est ce qui a changé. Alors, on s'est habitué, Jean-Louis, pour répondre à tes questions, on s'est habitué à avoir des Ibrahimovic, à avoir des Thiago Motta, à avoir par la suite des Neymar, des Mbappé, des Léo Messi, des Beckham. Et à Paris, il y en a eu beaucoup. Alors après, avec plus ou moins de bons résultats, on est d'accord. Hein, tu vois, des réussites ou pas des réussites, peu importe. Elles ont apporté, si tu veux, l'attractivité, surtout à l'international. Mais sur le championnat de France, franchement, pour les Français, la passion, elle a pas changé. La passion reste la même. Celui qui est amoureux du championnat de France et qui est amoureux de son club, il va se passionner, il va avoir la même adrénaline, si tu veux, avec des stars au PSG ou pas au PSG. Moi, ce que je veux te dire, c'est que je pars du principe que c'est pas un problème de perdre Kylian Mbappé. Par contre, il faut que nos locomotives, et il n'y a pas que le PSG, que nos locomotives travaillent beaucoup mieux qu'ils l'ont fait déjà cette année. Parce que cette année, je suis le premier à dire, j'ai toujours défendu la Ligue 1, le niveau de la Ligue 1, mais je suis le premier à dire que cette année, c'est une catastrophe. Le niveau n'était pas le niveau qu'on espérait, surtout l'année où les droits sont remis en vente, et que c'est une catastrophe d'avoir eu le spectacle en Ligue 1 cette année. C'est anormal que Marseille soit à ce niveau-là, c'est pas normal que Lyon soit à ce niveau-là, même s'ils finissent bien.
Dans ce cas, ça va être des années noires.
Parce que ces équipes-là, Jean-Louis, ils ont les moyens. Aujourd'hui, ils ont les moyens, les budgets. On le voit avec certaines équipes en Europe pour travailler mieux et rendre le football aussi spectaculaire.
C'est vrai que l'Atalanta a beaucoup moins de budget.
Exactement. Et là, j'en veux. Et on en a parlé quand on a construit l'émission. Moi, je reste persuadé que c'est les dirigeants et les joueurs, c'est eux qui détiennent la clé. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'avoir des stars pour te rendre un football excitant, un football un peu plus proche de tes supporters, du peuple entre guillemets, ouvrir un peu plus. Parce que les dirigeants et même les entourages des joueurs, je pense qu'ils oublient quelque chose. Ils oublient que l'essentiel, c'est que le joueur, il y a une proximité avec son public, avec les médias, et que tu peux pas, d'année en année, priver les mecs de ce rapport-là, avec tes supporters, avec la presse, avec ceci, parce qu'ils sont dans une bulle, et les entourages les mettent encore plus dans une autre bulle. Donc, la bulle, tu peux plus l'exploser, et tu peux plus rentrer. Et le problème, c'est que quand tu rentres plus, et que le spectacle, en plus, il est pourri, comme cette année, eh ben, automatiquement, il y a un détachement du football français. Et c'est là qu'on rentre dans peut-être les années noires. Donc moi, j'ai un message à leur envoyer. Qu'il n'y ait plus de stars au PSG, du moins entre guillemets, parce qu'il y a encore des grands joueurs, et il y en aura dans tous les autres clubs que je viens de te citer. Il y en aura. S'ils travaillent mieux, il y en aura. Non, moi, je dis juste que ouvrez un peu plus les portes. Ayez plus de proximité avec votre public. Remettez un peu plus d'humain dans le football. Et vous verrez que le football et les passionnés du championnat de France, il y en a beaucoup, et des gamins, la nouvelle génération, c'est pareil, tu dois les piquer grâce à ça, grâce à cette proximité un peu plus d'humain, comme nous on a vécu, c'est tout. Et aujourd'hui, ils sont partis à l'opposé, et c'est une catastrophe.
Une star, Jérôme. Okay.
Alors, Jean-Michel, est-ce que tu es d'accord avec Jérôme ?
Écoute, c'est compliqué. D'abord, je pense qu'on a été parfois un petit peu baladé par les services de communication de quelques clubs et qu'on a bien mordu à l'hameçon parce qu'il y a eu des stars qui sont venues mais qui étaient des stars sur le retour ou des stars sur le déclin. Effectivement, on a beaucoup parlé de Messi. Le Messi du Paris Saint-Germain n'était pas celui de Barcelone, et le Neymar du Paris Saint-Germain n'était pas celui de Barcelone non plus. Donc ils étaient déjà de l'autre, ils descendaient la montagne de l'autre côté. Déjà, il y a eu deux stars pour moi au Paris Saint-Germain. Deux joueurs en pleine possession de leurs moyens et puis qui ont fait du spectacle, et puis qui était Zlatan, qui était atypique, et Mbappé. Il n'y en a pas eu 36, hein.
Exactement.
Et puis aujourd'hui, pour avoir une star, dites-moi qui vous feriez venir pour remplacer Mbappé dans le championnat de France.
C'est compliqué.
Quelle est la star mondiale aujourd'hui qui vous fait rêver, qui est l'équivalent d'un Maradona, d'un Platini, d'un Zidane, d'un Johan Cruyff?
Je veux dire qu'il y en a aujourd'hui. Il y en a moins des stars dans le foot actuel, c'est ça que tu veux dire?
Des stars, grandes stars.
Moi, il me semble. Des grandes stars qui sont en même temps un petit peu charismatiques, parce que Cruyff était quelqu'un qui avait autre chose que le terrain. Zizou, c'était le terrain. Platini, c'était le terrain et autre chose. Mais des grandes stars aujourd'hui. Oui, on m'a parlé de Haaland. Haaland, c'est un énorme buteur. Pour moi, c'est pas un immense footballeur. Voilà, c'est.
Non, mais on est d'accord.
Je suis réducteur volontairement, mais donc, de ce côté-là, je ne pense pas que le football français va perdre ou va être orphelin. Il y a pas de star en Espagne non plus. Alors à ce moment-là, je vais vous dire aussi.
Il y a Mbappé.
Vinicius.
Il y a Mbappé, Vinicius.
Vinicius, Bellingham.
Lewandowski.
Lewandowski, il cherche un avant-centre à Barcelone. Alors donc, bon, même s'il a été très très fort face au Paris Saint-Germain. Non, ce qui m'inquiète le plus, les gars, c'est que je vois des budgets pharaonique dans le football français aujourd'hui, Il travaille sans doute bien pour faire rentrer beaucoup d'argent avec des investisseurs étrangers, des Américains, des Chinois, des Japonais. Ça se passe parfois bien, parfois pas très bien. Mais les dirigeants, et là je rejoins Jérôme à 200%, les dirigeants, c'est-à-dire le président, le directeur sportif, et là, ils travaillent, on est nuls. On est surtout nuls en dehors du terrain, nous les Français. On est surtout nuls à ce moment-là. Sur le terrain, pour quelle raison on serait encore champion du monde, Jean-Louis ? Deux fois champion du monde. Tu te rends compte ce que ça représente ? C'est fabuleux. Donc sur le terrain, c'est plutôt pas mal. Mais en dehors du terrain, avec des budgets de 200-220 millions, tu prends l'Olympique de Marseille, tu as à peine un bon joueur par ligne.
Oui.
Je dis pas une star.
À peine, oui, non, mais tu as raison.
Je te dis, tu as un bon joueur par ligne.
Oui,
tu enlèves déjà la ligne de gardien de but. Bon, tu en as un bon joueur en défense. Au milieu de terrain, Jérôme, je n'en suis pas sûr.
Ouais, bah, je sais pas, je te laisse juger.
Un avançant qui marque les buts. Voilà. Tu te rends compte, avec 220 ou 230 millions de budget.
C'est pour ça, Jean-Louis, il ne comprend pas ça.
Alors, Steve, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce qu'on doit se préparer à des années noires ?
Bah, bien sûr. Bien sûr, parce que ça travaille pas assez. Ça travaille pas assez, c'est prétentieux dans le foot, et je rejoins Jérôme et Jean-Michel. Dans le foot aujourd'hui, on pense beaucoup plus que c'est la communication qui gère le sportif. Je vois depuis des années, et je m'offusque à chaque fois, que ça soit les community managers qui gèrent pratiquement la communication des clubs, mais la politique sportive, la politique technique, moi j'en ai marre de voir... Franchement, toutes les 5 secondes, des vidéos de joueurs à l'entraînement, de communiquer là-dessus. Alors qu'au final, on crée énormément de distance. Les community managers aujourd'hui, pour moi, alors je dis pas qu'ils ne servent à rien dans les clubs, parce que c'est eux qui ont une importance, mais c'est la politique club, hein, bien sûr, in fine. C'est que on a mis
donc
énormément de distance
à cause des community managers là.
Non, je te parle de ma réflexion. En fait. De ma réflexion, c'est qu'on consomme tellement de foot, il y a plus rien de
D'authentique, de sincère,
et comme disait Jérôme tout à l'heure, de proximité. Je vois énormément de clubs, par exemple, moi je me balade quand même pas mal en France, énormément de clubs qui font pratiquement des séances à huis clos, pratiquement tous les jours.
Non, mais ça c'est vrai. Mais c'est juste pour
donc
ça,
en fait, alors attends, je finis là-dessus.
Attends, avec le championnat,
je vais finir là-dessus. Non, mais je finis là-dessus, Jean-Louis. Donc derrière, il y a cette proximité qui a été complètement cassée depuis une dizaine d'années avec cette communication à outrance. Derrière, il y a une nouvelle génération de consommateurs de football, c'est-à-dire les stades, la télé, on ne sait même plus sur quel moyen, quelle chaîne regarder les matchs, il y en a toujours trop. Et puis des joueurs qui aujourd'hui, je pense avoir cette réflexion, le joueur moyen en France coûte ultra cher. La star ne te coûte pas cher parce qu'elle est rentable, elle va avoir du merchandising derrière, donc il va pas y avoir cette problématique là et en plus elle aura sans doute du rendement. Mais le joueur moyen pour composer un 11 de départ, et là je rejoins Jean-Michel tout à l'heure, quel très bon joueur dans 5-6 équipes de Ligue 1 avec les plus gros budgets, il y en a pas. À part on enlève le PSG, QSI. Là, j'enlève ça. Marseille.
T'en as un peu.
Eh ben regarde, Marseille, Aubameyang. Toi qui es une star, toi.
T'en as un peu à Lille.
Qui à Lille?
À Lille, t'as les jeunes là qui ont une grosse valeur. T'as un grand gardien.
Mais ça reste encore à confirmer.
Jonathan David qui est quand même pas un mauvais.
C'est pas des mauvais joueurs si tu veux. Mais je te parle de star.
Montré que c'est un bon joueur.
Et ben comme disait Jean-Michel tout à l'heure, nous on forme des futurs stars où on récupère des stars qui sont sur la descente de la montagne. Ouais. Et donc, en fait, il faut savoir admettre, et Jean-Louis, à ta question, est-ce que on va vivre des années noires ? Non. On va vivre des années réalistes avec un football économique français qui va être moindre. Donc, il va falloir arrêter cette bulle. Et ça, c'est une réflexion de Manu Petit, cette bulle spéculative que je crois que vous servez à chaque fois. C'est inflationniste et tout ça. C'est qu'à un moment donné, on a pété plus haut que notre cul, on n'arrive pas à être attractif, formateur. Moi, je regarde, je suis énormément championnat U19.
Formateur, on l'est.
On est formateur pour les autres championnats.
Non, attends, tu peux être formateur.
Regarde, le championnat U19. Je vous invite à regarder. Là, il va y avoir la Gambardella.
Marseille contre Nancy.
Regarde, on parle de forme. On parle de formation. Sur le championnat U19, à Marseille, ils vont sans doute gagner la Coupe Gambardella. Combien de joueurs, à l'issue de ce match, vont intégrer l'effectif à Marseille, à Marseille, on va en parler tout à l'heure, à Marseille.
Mais ça, c'est pas la faute des joueurs, ça.
Mais c'est pas dit que c'était la faute des joueurs. Jean-Michel, c'est pas dit que c'était la faute des joueurs.
Il dit juste qu'il y a une formation qui est faite pour les autres, puisque ces joueurs-là.
On forme pour les autres.
Ouais, bon, après sors-moi les grands jeunes qui n'ont pas explosé à Marseille et qui n'ont pas signé leur contrat et qui ont explosé ailleurs.
Arrêtez.
T'as énervé Jean-Michel.
On forme. Oui, non, mais c'est pas. Non, personne ne m'énerve. Je suis calme et serein parce que j'ai toujours raison. Donc, j'ai pas besoin de m'énerver.
Ça y est, je me savais bien que t'étais le mentor de Jérôme Rotem.
J'ai pas besoin de m'énerver. Non, on forme pas pour les autres. Mais à un moment ou à un autre, il faut quand même considérer que chez les footballeurs professionnels, quel que soit leur âge, à un moment ou à un autre, ils signent un contrat. Oui. Et effectivement. Chaque fois qu'on leur propose un contrat en France, avec les règles sociales qu'il y a et les prélèvements qu'il y a, eh bien, chaque fois qu'on leur propose un contrat en France, il est très, très, très nettement inférieur à tout ce qu'on lui propose ailleurs.
Donc,
les dés sont pipés dès le départ.
T'as raison.
Dès le départ. Donc, moi, je veux bien qu'on ne soit pas formateur. On est formateur.
Alors.
Et on est formateur pour les autres, parce que les autres... Avec 30 euros, ils achètent beaucoup mieux que les Français avec 30 euros. Parce que quand tu mets 30 euros dans la main d'un joueur en France, il lui en reste 10. Et quand il est ailleurs, il lui en reste 28.
Voyons ce qu'on pense Gabriel qui nous rejoint au 30 Jérôme.
Salut Gabriel.
Tu brûles mon esprit, ton nez.
Gabriel.
Et Gabriel.
Salut, vous m'entendez bien?
Ouais, c'est bon, on t'entend. Bon,
on l'habite KO là.
Écoute Gabriel, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que la Ligue 1 va manger son pain noir sur les prochaines années?
Moi, j'ai bien peur que oui. Hein. Je vais rejoindre un peu la partie du oui pour plusieurs raisons et vous les avez citées la plupart du temps. Aussi bien pour le niveau de jeu, principalement, comme tu l'as relevé, Jérôme, sur les équipes qui sont pas
attendues. Enlève ton clignotant, Gabriel.
Qui sont pas aux attendus, je me suis arrêté pour respecter les règles.
Donc, bravo. On enlève les warnings alors, on les entend.
Ouais. C'est bon. Donc du coup, je disais par rapport au niveau de jeu qui est pas aux attendus. Ouais. La deuxième, c'est ce que Sabine vient de dire, hein, c'est les distributeurs. Les distributeurs, maintenant aujourd'hui, d'une année à une autre, faut s'abonner à différentes chaînes pour avoir accès à la Ligue 1. C'est toujours compliqué, c'est toujours avoir.
Là-dessus, sur les diffuseurs, on peut être d'accord. Et puis il y a un super. Il y a un coût surtout, ça coûte cher, mais n'empêche que t'es prêt à suivre et si les clubs te donnent, si ton club, le club que tu supportes ou le championnat que tu supportes te donne du spectacle, dire tu peux pas voir des purges comme on a
pas
vu cette année.
Pas forcément, Jérôme, je suis pas d'accord avec toi.
Si cette année, tu peux suivre un club.
Eh ben alors comment c'est possible? Alors excuse-moi, comment c'est possible qu'à Lens, tu vas au stade, tu kiffes ton club même quand ils étaient en Ligue 2, à Strasbourg quand ils étaient en Ligue 2, tu kiffes
Lens,
plein.
Lens surfe sur leurs dernières années où ils ont été brillants.
Il n'y a pas de vague à Lens, je te confirme.
Moi je vais te dire, ils surfent sur leurs 2-3 dernières années. Sauf que cette année, tu prends l'exemple, même il y a eu des sifflets, ça a été reproché même par les joueurs en disant ouais c'est des enfants gâtés maintenant, ils ont perdu l'habitude des années noires qu'on a eu en 2010 ou même après. À l'arrivée, c'est parce que ils ont senti que l'équipe elle avait régressé. Je suis désolé. Cette équipe-là, moi, elle a été à un certain niveau. Je suis là pour constater. Ils sont aussi responsables de la mauvaise année de la Ligue 1. C'est que Lens, ils ont régressé. Lens, ils étaient moins bons cette année. Voilà. Oui, ils ont vendu leurs meilleurs
joueurs.
Oui, mais d'accord. Mais surtout, mais à une époque,
par qui
ils
on
avaient peut-être moins de meilleurs joueurs. Mais l'équipe dégageait plus de force collective.
Allez, on arrête là. Merci.
Mais on s'en fout du résultat. Leur stade est plein. Ils ont un amour de leur public.
Mais c'est pas le seul.
Donc ce n'est pas que les résultats.
Mais non, mais tu me parles des supporters. Ne confonds pas les supporters et les spectateurs, ceux qui vont au stade, avec ceux qui regardent la Ligue 1 et qui consomment à la télé, qui payent.
Et puis les résultats.
Parce que les influences de Ligue 1 à l'arrivée, elles sont bonnes. Regarde à Marseille. Marseille, saison catastrophique. Ils ont fait le plein toute l'année.
Allez, on arrête.
Et donc
là.
Alors
Et ben donc, ça, c'est pas le reflet de ce que vaut la Ligue 1 réellement. Voilà. Par contre, bah, oui. Est-ce que tu t'abonnes pour regarder l'Olympique de Marseille à la télé? Je te dis que non.
Allez, on arrête sur ce débat. C'était passionnant. J'ai juste une dernière petite question. Jean-Michel, toi qui maîtrises la géométrie, juste l'angle de la surface de réparation. Vraiment l'angle. On considère qu'il est à 35 mètres.
L'angle de la surface de réparation
Par rapport à quoi?
Non, mais il faut calculer l'hypoténuse.
Ouais, bah je l'ai fait, c'est fait 25 mètres.
25 mètres, j'allais dire.
Voilà. Peut-être. Oui.
Alors, donc jamais 35 mètres.
Déjà 25 mètres.
Mais
sache que la frappe, elle est pas
Steve,
dans l'angle.
Steve,
elle est exactement dans l'angle.
Steve,
mais elle est 5 mètres.
Je voulais dire à Steve que.
Alors.
Oui, Jean-Michel.
Si tu me dis 30 mètres, je peux être d'accord.
Il est à l'angle. La frappe est à l'angle. À l'angle. Un mètre avant la surface.
Un mètre.
Donc allez, je te l'ai fait à 26 mètres.
Mais bidon, quoi.
Précision pour Steve. L'hypoténuse, c'est pas une insulte, c'est pas un gros mot.
Alors Jean-Michel, il y a beaucoup de choses où là je suis pas bon, mais l'histoire et les mathématiques, je suis costaud.
Bah voilà, moi j'ai aucun doute là-dessus.
Le foot, je le laisse.
Et l'économie, si.
Le foot, je le laisse.
L'économie. La bulle spéculative. Oui, la bulle.
Ça dit quoi, le foot, tu nous le laisses? Ouais, bah heureusement encore.
Non. Je vais dire. Je vous laisse parce que vous êtes soi-disant des experts.
Soi-disant.
La saison de Jonathan Klaus est-elle un échec total ou a-t-il des circonstances atténuantes? C'est le grand jugement de la saison de l'OM qui arrive dans Rotten sans flamme.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h31 sur RMC, on est là, on est bien. Deuxième demi-heure de Rotten sans flamme du soir et ça va être le procès. Le procès, le grand jugement de l'Olympique de Marseille. On va s'attaquer à Jonathan Klaus dans un instant sur le banc des accusés. On est avec Steve Savidan, avec Jean-Michel Larquet et avec Jean-Louis Tour. Et bien entendu, comme tous les jours, vous en avez l'habitude, le moment de Julien Cazard dans une petite quinzaine de minutes, Jean-Louis.
Julien Cazard, et en deuxième heure, un invité sera avec nous, Éric Roy.
Ah, L'entraîneur de l'année.
Eh oui. L'entraîneur de Brest sera là.
Il doit être courtisé. Hein.
Peut-être le futur entraîneur de l'OM.
On l'avait annoncé. Hein.
Oui, surtout toi. Rendez-vous en deuxième heure pour, si vous êtes supporter brestois, vous pourrez appeler au 32-16. Mais le grand jugement continue.
Le latéral marseillais dans la surface de réparation. Il a poussé son ballon un peu loin. Mais il va marquer Jonathan Klaus. Le premier but pour l'Olympique de Marseille.
Jonathan Klaus, il doit être un joueur important pour cette équipe. Mais être un joueur important, il s'est fait avec toutes les petites attitudes dans le quotidien.
C'est d'abord lié forcément à ses performances. Il est moins bon depuis environ 2 mois.
Il m'a mis en garde sur 2-3 joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là.
Le grand jugement.
Après avoir acquitté Franck McCourt, puis Jean-Louis Gasset, le grand jugement va se pencher sur les joueurs de l'effectif marseillais pour faire donc le bilan de la saison que l'on fait tous les jours dans Rotten sans flamme. Et on a ciblé Jonathan Klaus, le défenseur, le latéral droit, qui a été au centre donc d'une polémique en milieu de saison. Vous avez écouté les extraits de Pablo Longoria et Mehdi Benassia à l'instant. Sur le terrain, Klaus, c'est 43 matchs toutes compétitions confondues, 5 buts, 12 passes décisives et donc ses critiques sur son manque d'investissement. À un moment donné de la saison, on lui reprochait de vouloir se préserver en vue de l'Euro. Qu'avez-vous pensé de sa saison? Est-elle insuffisante ou a-t-il des circonstances atténuantes? Pour le procureur, elle est ratée. Le procureur, c'est maître Jérôme Rotten. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
L'avocat de Jonathan Klaus, ce sera maître Steve Savidan. Bonsoir.
Oh, bonsoir.
Et le juge qui est là pour trancher l'affaire, c'est le juge Larquet. Bonsoir, monsieur le juge.
J'adore cette position.
Bien sûr.
T'es excellent.
Alors allons-y, monsieur le procureur. Qu'est-ce que vous reprochez à la saison de Jonathan Klaus? Pourquoi elle est ratée?
Bah, Alors, moi,
ça bégaye déjà.
Non, j'ai hâte d'entendre Steve Savidan nous défendre Jonathan Clauss, parce que quand il y a un joueur international, et à Marseille, on ne peut pas dire qu'il y en a beaucoup, tu as un certain.
Des fois, il faut mieux écrire.
Tu as un certain statut dans une équipe, et automatiquement, il est devenu international, pas grâce aux médias ou grâce à autre chose, grâce à son travail, parce qu'il y a eu une ascension fulgurante, et tant mieux pour lui, il l'a mérité, sa sélection et ses sélections. N'empêche que derrière c'est un poids, c'est comme ça, le statut il change, et donc t'as le devoir d'apporter des choses bien plus importantes au club, sur le terrain et même en dehors, qu'un joueur lambda. C'est pour ça qu'on dit que les joueurs internationaux touchent plus d'argent, ont un statut particulier dans les clubs, parce que c'est la réalité et c'est ça qui te fait avancer. Et quand à Marseille en plus tu souffres des bons joueurs, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Michel, je pense que automatiquement t'attendais que Jonathan Clauss fonctionne comme un joueur leader déjà sur le terrain. Je parle même pas dans le vestiaire, parce que ça, la personnalité de chacun, c'est pas parce que t'es un joueur international que dans le vestiaire tu dois ouvrir ta tronche, tu dois parler, remotiver les troupes. Peut-être que lui c'est pas cette personnalité là sauf que sur le terrain tu dois dégager de la sérénité, de la force. Et tout au long de la saison, ce que j'ai constaté par rapport à l'année dernière, où Jonathan Clauss avait fait une très bonne saison, j'étais le premier à militer pour qu'il retrouve l'équipe de France, qui était injustement retirée, qui lui avait été injustement retirée, parce que il y a une pénurie d'arrière-droit en France. On n'a pas de bons arrière-droits. Quand tu vois que c'est Koundé ou Pavard, tu te dis il y a un spécialiste du poste. Et Jonathan Clauss, on a le droit de le tester. Sauf que le test, pour moi, il l'a pas passé positivement, et qu'il a montré ses limites. Et les limites, c'est cette année avec l'Olympique de Marseille. Alors il y a les stats que tu viens de donner. Moi, en Ligue 1, quand la qualité principale de Jonathan Clauss est d'être un bon contre-attaquant, et donc de délivrer des bons centres et des bonnes passes, parce qu'il a un bon pied. Quand tu mets que 4 passes décisives dans l'année en championnat, c'est insuffisant. C'est déjà insuffisant. Ton année, pour moi, elle n'est pas réussie, surtout quand tu as un attaquant. Surtout quand tu as un attaquant, Jean-Louis, qui met 15-20 buts. Quand tu as un attaquant prolifique, quand tu as un attaquant qui rate des choses, je veux bien. Il y a des fois, la passe décisive, elle aurait pu être décisive, mais elle n'est pas comptée parce que l'attaquant fait n'importe quoi, ce qui n'est pas le cas. Et
après, on ne peut pas dire qu'il est un avant-centre non plus pour recevoir les centres.
Les matchs, on les a vus. Et quand tu vois l'OM qui a peiné, surtout sur les matchs à l'extérieur, un manque de caractère, c'est aussi le manque de force des joueurs comme Jonathan Clauss. Et quand tu es un joueur international, et je finirai là-dessus, tu te dois d'apporter beaucoup plus, de montrer ta force. Okay. Et j'ai l'impression, c'est pas une impression, c'est un constat tout au long de l'année, dès que le niveau s'est élevé, et on l'a vu sur les deux matchs contre l'Atalanta, on l'a vu sur certains matchs de Coupe d'Europe, on l'a vu sur les grands matchs de Ligue 1, et il n'y en a pas eu beaucoup, et sur les matchs d'équipe de France, je trouve que plus ça va, moins ça va pour lui. Quand ça monte, il montre trop de limites. Et puis surtout défensivement.
Oui,
défensivement, surtout. Je suis désolé.
Il faut donner la parole à la défense.
Mais il y a beaucoup, beaucoup trop de manques. Je suis désolé, Jonathan, j'ai cru en toi, mais je trouve que tu as atteint un plafond de verre.
Steve.
Alors déjà, moi je vais rejoindre un petit peu Jérôme. Moi, la saison de Jonathan Clauss, pour moi, elle n'a pas été excellente, elle a été bonne. Ça a été une bonne saison.
Tu rejoins pas Jérôme
dans... Non, mais parce que je vais rejoindre Jérôme justement par la suite. C'est que en fait, il a eu cette année, comme l'OM, il y a eu un plafond de verre. Il y a eu une saison compliquée pour l'OM en deux étapes, voire même plus ou moins trois étapes, avec les changements d'entraîneur, changement de dispositif de jeu, changement d'attitude. Et faut pas oublier quand même que tu as un attaquant, et on revient sur les caractéristiques que Jérôme disait, sur un joueur qui potentiellement met des centres, met des passes décisives. Aubameyang, en tant qu'attaquant, première partie de saison, ça n'a pas été génial non plus. Donc à un moment donné, tu peux faire des passes, Jérôme, tu le sais bien, ton attaquant, il doit marquer pour que ça devienne des passes décisives. Moi, je crois que surtout, c'est qu'on se trompe dans le jugement de Jonathan Clauss. Parce que quand on entend Benassia, directeur sportif de l'OM, et Longoria, je crois que surtout, là où ça a été le gros problème cette année, et là, la merde, elle a été foutue dans sa tête, c'est qu'il arrive en fin de contrat l'année prochaine. Ils l'ont acheté 11 millions d'euros. Ils sentent une opportunité. Là, j'ai regardé sur Transfermarkt, il est valorisé à 15 millions d'euros. Ils se disent... ça serait peut-être cette année qu'il devrait partir ou qu'on devrait le faire vendre. Peut-être valorisation de son, de son contrat. Une masse salariale qui est assez importante quand même, parce que justement il est international. Donc, comme le disait Jérôme, un peu plus payé que les autres, ce qui est normal. Ils se disent, ça peut être ça. Maintenant, sur le joueur en lui-même, c'est pas une année facile non plus pour lui. Et là, je trouve pas forcément de toujours des justifications. Quand tu arrives à l'OM, tu dois savoir que quand tu arrives à l'OM, ça va être un contexte particulier. Et là, c'est là où je rejoins Jérôme. Son plafond de verre à l'OM, il l'a connu cette année. Ça a été compliqué. Il n'a pas réussi à élever son niveau de jeu. Maintenant, l'OM, c'est pas une top saison. Si on s'attendait à ce qu'un joueur qui avait fait la montée avec Lens soit le meneur de cette équipe à l'OM, je pense que l'OM a une grande responsabilité okay. dans sa saison qui a été un peu mitigée, parce qu'ils auraient dû, s'ils comptaient sur un meneur, le mettre dans des conditions beaucoup plus favorables et pas le déstabiliser comme ils l'ont fait plusieurs fois dans cette saison.
Le verdict, monsieur le juge, est-ce que Jonathan Clauss est condamné?
Si personne n'est responsable de la mauvaise saison de l'Olympique de Marseille, ni l'entraîneur, ni le président, ni les joueurs, j'ai peur contre eux. On tombe sur les balayeurs du coin.
Non, ils sont en grève à Marseille, fais gaffe.
Ils sont peut-être, on va tomber sur lui quand même, c'est pas grave. Non, messieurs, arrêtons de plaisanter. Évidemment que c'est insuffisant. Évidemment que Jérôme oui. a raison. Évidemment.
Ah ouais, mais Jean-Michel, t'as pas le droit. Oh là là.
Pourquoi tu t'énerves comme ça?
Je m'énerve pas déjà. Tu as pas vu quand je m'énerve, Jean-Louis. Hein. Non, mais là, c'est pas possible. On peut pas.
On a l'air en désaccord.
Jean-Michel, confirme ta décision.
Et évidemment que Jonathan Clauss, international, avait à faire beaucoup plus qu'il n'a fait cette année. Il a fait une mauvaise saison.
Parfait. Merci Jean-Michel.
Bravo.
On a été gentil, on n'a même pas parlé de son état d'esprit. Parce que quand tu as autant de choses qui sortent du vestiaire de l'Olympique de Marseille, c'est que même lui n'a pas été réprochable.
Allez, dans une seconde, le casar enchaîné avec Bruno Genesio dedans, Jérôme, ton ami, celui dont tu as révélé des infos exclusives hier.
Moi, il me manque.
Allez, à tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h46 sur RMC. On est là, on est bien dans Roten sans flamme. On finit la première heure et après 19h, on a encore un bon programme concocté comme tous les jours par Jean-Louis Tour. On est avec Jean-Michel Larquet, Steve Savidan. Ce soir, restez bien avec nous. On est là jusqu'à 20h. Là, ça va être le moment de se détendre avec Julien Cazar, qui, me semble-t-il, a bien travaillé aujourd'hui.
Oh, il te semble? T'avances pas trop.
Je sais pas devant toi. On sent que c'est la fin pour tout le monde.
Les clubs, à 19h, les clubs sont-ils trop laxistes sur notamment les polémiques du week-end et la polémique Camara à Monaco 32-16? Pour participer au débat, on sera aussi avec Eric Roy tout à l'heure.
Ah, la chance!
RMC Roten sans flamme.
Le casar enchaîné.
Avec Roy Henrique.
J'aime bien ces ponctuations.
Et toujours. Bonsoir à toutes et à tous. Salut les copains. Bonsoir. Salut Jérôme. Salut Jean-Louis. Salut Jean-Michel. Salut Steve. Toujours la patate. Toujours excellent.
Oui, tu l'essaies, Juju.
J'ai vu que tu as posté une photo où tu étais sur la tombe de Johnny.
Eh oui, yeah, tu le sais, j'ai eu cette chance. Mourir l'amour enchaîné.
Mourir d'amour enchaîné, monsieur. Il va mieux,
t'es belle nouvelle.
Ouais, non, et bah franchement, beau petit pèlerinage, j'ai pensé à ma petite maman, voilà, c'est tout. Des choses simples.
Bien sûr, c'est des choses simples, c'est important. C'est toi, tu nous rappelles le football d'en bas, ça fait du bien. Les vrais gens, les petites gens, les gens de peu de rien et de peu de tout. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous.
99% des auditeurs quand même. Hein,
pour pas dire ça.
À part les copains.
Pour pas dire
ça. Non, parce que les 1%, c'est les potes de Jérôme.
Bien sûr, ah bon ? Vas-y. Ils n'écoutent pas France Culture. Bonsoir à tous et à tous. Nous sommes le 23 mai 2024 et la Ligue 1 n'a toujours pas de diffuseur. Eh oui, toujours pas. Non, il y a pas. Alors c'est grave dans un sens, oui. Mais dans un autre sens, pas tant que ça, s'il n'y a pas de diffuseur, au pire, on ne voit pas les matchs. Et franchement, est-ce que c'est si grave que ça?
Bah, certains, non. Nous, ça nous embête un peu. Pourquoi? On a besoin de regarder les matchs pour les émissions.
Mais nous, on peut faire quand même des émissions, on n'est pas obligé.
Jean-Louis, ça fait combien de temps que tu n'as pas été au stade? Stade.
Quelle est l'émission?
Il y en a combien qui ont fait des émissions sans regarder les matchs?
Quelle est l'émission de sport qui fait le plus d'audience sur RMC?
Le Moscato Show, mais Rotten sans flamme arrive. Mais oui, le Moscato Show.
Est-ce que tu écoutes le Moscato Show? Est-ce que tu crois vraiment que Vincent Moscato, il regarde les matchs de foot, les matchs de tennis et le handball?
Et les matchs de rugby?
Ah, parce que tu crois vraiment que Vincent il regarde le rugby?
Non, justement, je pense qu'il fait la même chose que pour les matchs de foot.
On va quand même vérifier si vraiment on a besoin de regarder un sport. Par exemple, je prends hier, passage antenne, il est 15h. Ça parle du capitaine de Leinster. Le Leinster, c'est quand même une grosse équipe. On parle, c'est un peu comme le Real, le Barça. Le capitaine, trop facile pour Vincent. Bon, évidemment, c'est Gibson Park, on le sait, c'est cadeau, c'est Vincent.
d'énormes équipes face à face, mais un homme, Antoine Dupont, qui peut tout faire basculer. Est-ce que ça dépend de lui?
Dupont, ça dépend de lui, mais ce qui est intéressant, c'est que ça dépend des deux demi-mêlées. En face, le demi-irlandais qui est extraordinaire, l'ancien All Black, qui s'appelle Jamie Foxx.
Jamie Foxx, Gibson Park, Jamie Foxx, Paul Walker, tu l'appelles comme tu veux, et roule ma poule. Et ça, c'est combien d'audience? C'est la meilleure audience.
Million.
Donc, excusez-moi, si au pire, bon, tu vois, c'est un carton absolu, ça va dire qu'on chaque année sans avoir vu un seul match en faisant des débats aussi pointus que chez nous, du genre, est-ce qu'on est dur avec Mbappé? Est-ce qu'on est trop sympa? Bon, tu vois, des trucs pointus. Et je vous rappelle qu'on fait des débats aussi avec Pascal Olmeta. Est-ce que vous pensez vraiment que Pascal Olmeta regarde les matchs?
Oui.
Merci.
Oui,
donc,
sûr, mais donc, il serait pas là sinon.
Donc, moi, j'ai une pensée pour tous les autres acteurs du monde du foot, mais leur dire que nous, RMC, nous, ça ne nous changera rien. S'il n'y a pas de diffusion, allez, sommaire. On s'en fout, on regarde pas.
Dans complètement.
On regardera éventuellement un peu de Coupe d'Europe. Dans cette édition, nous reviendrons sur notre thème de la semaine, le coup de pompe. Ce fameux coup de pompe dont on est un peu tous victimes, j'ai l'impression, qui se propage de plus en plus dans la rédaction. Pas toi, Jean-Louis, évidemment. Toi, t'es au max. Surtout auprès de ceux qui ont bossé d'arrache-pied toute l'année, qui sont sur les rotules. Vous voyez de qui je veux parler?
Non.
Christophe Dugarry, bien entendu. Stacanoviste du métier de consultant. Qui finit l'année. Tu sais, on sent que, tu sais, c'est le Bayer Leverkusen. Tu sens que là, la dernière marche, il a tellement donné. Il commence à être dans le dur. Hier, lors du quiz, on a vécu un petit moment d'absence. Quel Lillois est le fils d'un ancien joueur de la Mannschaft?
Olmeta.
Quel Lillois.
Il l'a dit avec un...
Ah ouais, non mais, il n'a pas fait Olmeta.
Olmeta.
Olmeta, ce fameux joueur dont le papa était dans la Mannschaft. C'est vrai que... Alors, moi, je ne sais pas ce qu'il faisait la famille Olmeta pendant la guerre. A priori, c'était plus dans le maquis qu'à la commandanture, mais... Visiblement, on n'a pas toutes les infos. On n'a pas trop compris ce moment de flottement de Christophe.
Il a tenté, voilà.
Ouais. Alors, par contre, il était au taquet un peu plus tôt dans un débat avec.
Mais rassurez-moi, c'était pas ça, hein.
C'était pas la réponse.
C'était Haraldsson, oui. Le fils d'Harald. Il était au taquet avec notre auditeur. On écoute, il était parfait.
Patrice, ton rejoint au 32-16.
Salut Patrice.
Salut, bonsoir.
Je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que rassure-moi Patrice, tu vas pas comparer la carrière de Luis Enrique en tant qu'entraîneur avec celle de Pierre Sage.
Tu me compares un match, je te compare le même
mais
match.
Mais c'est pas qu'un match. Rappelle-toi le match de Lens au Groupama Stadium.
Je te compare pas.
Vas-y Pierre,
juste. Journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Une journée pour se souvenir, une journée pour faire avancer la recherche. Pour faire un don de 10 euros à la Fondation pour la Recherche Médicale, vous allez souvenir par SMS.
Pourtant, moi, j'ai trouvé en forme dernièrement.
T'as fait un montage. T'es pas aussi rapproché.
Arrête, j'y étais, je suis très vexé, c'est pas du tout un montage. Le mec, on dit 20 fois Patrice, et il dit, te laisse pas faire Pierre. On
est sur 10 secondes après. C'est avoir dit bravo Patrice.
Il parlait pas de Pierre et Sage.
Non, mais Pierre, Patrice. Allez, tout ça, c'est pareil.
C'est pareil.
De toute façon, Pierre en anglais, ça se dit Patrice. Dans cette édition, nous reviendrons sur la remontée incroyable de cette fête championnat, une remontée qui restera historique.
Lyon.
Non. La vraie remontée, c'est l'OM. vous êtes au courant? Depuis hier. Non, parce que qui de mieux que l'OM pour l'expliquer cette remontée? J'ai envie d'appeler le Isaac Newton du panier, le Archimède du Roucas Blanc, le Pythagore du camion Pids, Gros Samir.
Ceci est une analyse de Gros Samir, le patron du baby à Marseille.
En gros, vu que l'Atalanta est champion d'Europe,
d'Europa League,
et qu'elle a battu les Leverkusen, la meilleure équipe d'Europe et vainqueur d'Europe, elle a toute l'Europe.
Et beaucoup de matchs nuls, quand même.
Et qu'ils ont perdu 3-0, le même score contre l'OM. Sachant que le Bayern de Leverkusen,
c'est le Bayern.
Ils ont gagné à Bundesliga, mathématiquement, l'OM est champion d'Allemagne.
Et enfin, c'est pas.
Et vu que le Bayern, ils ont fini devant le Borussia Dortmund. Ça veut dire que Dortmund, quand ils ont éliminé le PSG alors qu'ils sont moins forts que le Bayern, qui est aussi fort que l'OM, ça veut dire que mathématiquement, l'OM est champion de France, gros. Donc si je résume, depuis hier soir, l'OM est champion d'Allemagne, champion de France et champion d'Europe.
Sauf que mathématiquement, on est 9e.
En sous toi, ceci était une analyse de Gros Samir, patron du baby à Marseille.
Mais vous savez que je pense que ça se dit dans certains... Dans certains milieux du métaverse, on doit t'expliquer que vu qu'ils ont gagné 3-0 comme contre l'OM au final, ça se
sont pas plus mauvais.
Il y a un club qui joue à la Coupe d'Europe. Hein, on va aller vite. C'est l'OGC Nice.
Inquiète. Oui.
C'est l'OGC Nice. Et l'OGC Nice, on a vu, il a perdu son directeur sportif et son entraîneur.
Exactement.
Mais ils sont sur un gros duo.
Oui.
Flo Maurice et Genesio. Flo Maurice, c'est pratiquement fait.
Bolizel.
Genesio, c'est le plus important. Jim Radcliffe l'a appelé en direct.
Ah bon?
Ah bon, on a vu nos micros.
Ah, écoutons.
Ah, c'est énorme.
Allô?
Hello, Mr. Genesio?
Allô, oui. Qui est à l'appareil?
Oh, pardon, je vous réveille peut-être.
Ah non, pas du tout. Je suis levé depuis 7 durs, là. Je suis à bloc. Forme de ouf.
Ah, d'accord. Monsieur Genesio, je peux vous appeler Bruno?
Bah oui, c'est mon prénom. J'ai pas choisi. Pas hyper funky, mais bon, c'est comme ça.
Ah oui, vous auriez préféré un nom plus funky?
Ah bah oui, moi je suis un gueudin. Un déglingo. Je mange des guêpes et tout. Vous m'avez pas dit, vous êtes qui,
je... Ah, pardon, je me présente, je suis Jim Radcliffe.
Ah, génial, mec d'Harry Potter, je suis super fan. C'est vrai qu'Hermione, dans les derniers épisodes, pendant le tournage, elle portait pas de culotte.
Mais... Alors, pardon, je suis désolé, mais je ne suis pas l'acteur Daniel Radcliffe. Je suis Jim Radcliffe, le président de l'OGC Nice, l'homme le plus riche d'Angleterre. Et je vous appelle pour savoir si ça vous dirait d'être notre coach.
Le coach de l'Angleterre?
Non, le coach de l'OGC Nice.
Coach de Nice?
Ça va, Bruno? Vous faites un malaise?
Non, c'est un gris de joie. Je suis hyper content. Vous êtes milliardaire comme François Pinault. Sauf que lui, l'argent a été dépensé n'importe comment par l'autre, là. Flo Maurice.
Mais ça tombe bien! Je le prends comme directeur sportif, Flo Maurice! Vous êtes content?
C'est un gémissement.
Attendez, on va vous faire une équipe en Pantisonion. Vous savez, nous, on a aussi Manchester United, donc on peut faire des passerelles. On va vous donner Rashford, par exemple. C'est cool, Rashford.
Marcus Rashford?
Non, c'est Bradley. Rashford, c'est son cousin. Il est au centre de formation de United. Et vous aurez aussi Fernandez.
Bruno Fernandez?
Non, c'est Stéphane Fernandez.
Oui,
c'est un jeune de Saint-Maur en post-formation à Man United. Et Anthony aussi.
Anthony, le Brésilien?
Non, Anthony, c'est mon neveu. Il est très fort en U17. Hein. Et puis Maguire.
Harry Maguire?
Yes, c'est ça, Harry Maguire. Je vous demande pas si vous êtes content là.
Non, non.
Bon, est-ce que vous acceptez l'offre?
Attendez, il faut que je demande à mon agent. Solange, Pupus, je te dis d'aller à Nice?
Ah ben oui, il fait chaud.
Alors d'accord.
Oh, cool, c'est d'accord. Un contrat de 3 ans, ça vous va?
Attendez, je demande à mon avocat. Pupus? 3 ans, ça te va?
Ah ben oui, j'aurai le temps de faire pousser mes glaïeuls dans le jardin.
Oh, d'accord.
Ah, super, je vous laisse, je dois appeler Flo Maurice.
Ah,
pardon, j'ai oublié. Désolé.
Eh ben, je sens que ce duo va te plaire.
On embrasse Bruno Genesio qui nous écoute régulièrement. Ouais, le vrai.
La pêche. Super content.
C'est trop bon. RMC, le Casar enchaîné. Réécoutez Julien Casar en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC.
S'il fait Bruno comme ça, Bruno Genesio comme ça, imagine comment il aurait fait Jacques Santini.
Ah ouais, intérêt. La polémique, Mohamed Camara, les clubs sont-ils trop laxistes? 32-16, à tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h02 sur RMC, la deuxième heure de Roten sans flamme. C'est pour maintenant une superbe équipe ce soir avec Steve Savidan, avec Jean-Michel Larquet et avec
Peut-être même la meilleure, hein.
Jean-Louis Tour. Je sais pas. En tout cas, on a passé une excellente première heure, Steve, avec Jean-Michel. Donc, vous pouvez la réécouter en podcast. Mais attendez 20h parce que là, on a une bonne heure de débat encore concocté par Jean-Louis. Jean-Louis,
déjà, je réclame le grand jugement des membres de la Dream Team de Roten sans flamme. Savoir tous les jours si chacun a fait bonne année ou non.
Ça va arriver.
On va faire.
Tu te prends pour Benassia et Longoria, toi.
Moi, je ne prends pour personne.
Non, mais on fait un bilan.
Un bilan.
Après,
ils ont réussi ou pas.
Comment on fait si c'est Jérôme le poulet mauvais?
Bah déjà, comment tu veux que je sois le plus mauvais quand tu regardes les audiences et qu'on bat le record d'audience?
C'est impossible.
Non, mais dire, les audiences,
c'est quoi? Mais l'émission,
c'est grâce à une équipe. Tu vois, tout de suite.
Non, mais c'est pour ça que je me permets.
On est juste
Jean-Louis,
de passage. Avant, ça s'appelait Capitaine Larquet, ça s'appelait Dugas. Maintenant, ça s'appelle Rotet.
Exactement les noms.
Ouais, on est juste de passage. On est juste de passage.
Ça vaut même pas le dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une équipe autour de moi et qu'on est capable, avec Jean-Louis, de juger qui a apporté
et avec Julien Casar, je pense on serait objectif.
Et pourquoi le peuple ne peut pas décider? Le peuple,
non, mais en fait le peuple, nous
non, mais sur le grand jugement, c'est pas le peuple, c'est pas un jury populaire qui décide. Il y a un juge
Stevie, c'est pas la guillotine, 789.
Cette année, on a tenté des coups. T'en as fait partie.
Ouais.
Donc, on est capable de le juger sur une année.
Est-ce que ta saison est réussie, Steve?
Déjà, elle n'est pas finie, mais jusqu'à présent, je pense qu'elle a été pas mal.
D'accord. Jean-Michel, est-ce que tu considères que la saison de Steve est réussie?
Oh, bah ça y est.
Jean-Michel.
Il n'y a plus de connexion.
Allez, dans cette deuxième heure.
Eric, je te rappelle tout à l'heure, Jean-Louis. Je te rappelle après l'émission.
Oui, bah, tu réfléchis un peu. On a ta réponse.
Non, par contre, pour assurer tout le monde, même si il n'y a pas tout le temps été à la hauteur, non, Steve sera là l'année prochaine.
Ah, ça, c'est une info.
Ouais, je vous donne.
Reconduit.
Oui, oui.
Même lui, je ne sais pas.
Je ne savais même pas, tu vois.
Voilà.
Écoute, je te l'annonce.
Il y a Jean-Michel qui marmonne.
Il y a quelques fois, tu ne réussis pas ta première saison, ta deuxième.
Ah, c'est
et
pour
tu
ça.
Restes quand même, hein, c'est dans
c'est pour ça, Jean-Michel.
Ouais, regarde-toi, Jean-Michel.
On lui en donne une deuxième.
Et Jean-Michel, il est reconduit aussi?
Bah, Jean-Michel, c'est lui qui décide. C'est comme dans les grands clubs quand t'es une star.
Non, c'est pas lui qui
décide. C'est lui qui décide.
Après qu'on l'a laissé décider, il a pris sa retraite, non. Il est revenu un mois après. Non, on refait plus ça.
Tant que le manche est solide, il reste.
Je t'interdis de dire ça parce que c'est toi qui m'as rappelé.
Quoi?
T'es vraiment
mais
une planche pour.
Mais quel mandat, on dirait Jérôme, c'est incroyable.
T'es vraiment une planche pour, hein.
Non, mais c'est dingue.
Alors, tu as demandé à Antoine de m'appeler. Voilà, tu as
dit
Antoine.
N'importe quoi. Pour sortir de ta retraite?
Non.
C'est toi qui as appelé, je m'ennuie devant la télé. Rappelez-moi, j'en veux plus.
Allez, gonflé comme un poisson lune.
Jean-Michel, moi, tu m'as juste dit quelque chose. Tu m'as dit, j'en ai marre de Régine, là, trop, là. Donc, fais-moi souffler de temps en temps, deux heures.
Quand même, comment tu réécris l'histoire. Bon, bref.
Oui, d'accord, oui.
Dans cette deuxième heure, Éric Roy, l'entraîneur de l'année en Ligue 1, sera avec nous. Vous pouvez venir l'interroger, supporter Brestois au 32-16. Il y a plein de choses à lui demander.
Ah bah oui.
Est-ce qu'il sera sur le banc l'année prochaine en Ligue des Champions? Où va-t-elle se jouer cette Ligue des Champions avec Brest? Est-ce qu'il y aura des recrues? Est-ce que Lorenzi, le directeur sportif, va rester? Tout ça, c'est à 19h30. Le quiz à 19h45. Même si Jérôme a gagné hier, il n'y aura pas de cuillère de bois.
Incroyable.
Terrible nouvelle pour la France du foot. Il y a quand même une enceinte portable de Lexon à gagner, la Minoté au design épuré. Pour la gagner, vous vous inscrivez en envoyant top au 732-16 et vous serez inscrit pour le quiz. Et puis il y a la roue. Il n'y a pas eu des trompettes, hein. On est d'accord.
Pourtant, il y en a.
Non,
j'ai un doute par
rapport. Non, il n'y a pas eu. Ça va arriver.
Donc, dès que l'alerte sonore tombe, vous aurez 5 minutes pour envoyer roue au 732-16 et peut-être gagner 20 000 euros. Mais tout de suite, la polémique du week-end.
Ça y est, je l'ai fait. J'ai fait mon top 5 des plus grands orateurs français. Ça va nous permettre de nous inspirer de grands orateurs et puis de savourer des beaux discours. En cinquième position, je mets...
Tu pars sur des points faibles. Tu commences à foutre un peu le bing, ça, là.
En quatrième position, j'ai nommé...
Le matin, quand je me lève, Jérôme, j'ai toujours le sourire et la trique en même temps. Alors, ça va bien.
Troisième position...
Mais dis-moi, vous n'existez pas, mais quand vous faites guichet fermé, l'ambiance qu'il y a, c'est un 13e homme. Hein, voilà.
En deuxième position...
Ça va faire mal à Jérôme, on va être champion.
Et en première position, le plus grand.
Aujourd'hui, mon message personnel, c'est que tout ce qui est politique, tout ce qui est autre, putain, mais carrez-vous-le dans le cul.
RMC, Roten sans flamme.
Roten se chauffe.
Toujours important de rappeler les positions des philosophes de Roten sans flamme. Oui. Alors, c'était la polémique du week-end. Le joueur de Monaco, Mohamed Camara, a volontairement caché le logo contre l'homophobie qui était sur son maillot, et c'était le cas sur tous les maillots des clubs de Ligue 1 ce week-end. Il y a eu des cas moins flagrants, des joueurs qui soit se sont fait porter pâle, soit ont discrètement esquivé la photo au moment où il fallait rendre hommage à ce combat. Et hier, on a appris donc que Mohamed Camara passerait en commission de discipline le 30 mai prochain pour s'expliquer. Son club s'est excusé auprès de la Ligue et évoque de possibles sanctions, mais bon, rien pour l'instant de clair sur une éventuelle sanction. Pendant ce temps, Camara a reçu le soutien de la fédération malienne, mettant en avant sa liberté d'expression et donc sa liberté de ne pas s'exprimer et de ne pas soutenir certaines causes contre son gré. Mais alors, les clubs doivent-ils aller plus loin? C'est ça le débat qu'on veut lancer ce soir. Sanctionner plus vite, plus fort, voire même enquêter davantage sur les intentions des joueurs, sur leurs convictions et sur leur capacité à apparaître sur certains combats dans la saison. En clair, est-ce que les clubs sont trop laxistes actuellement? Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour débattre, Jérôme.
Moi, j'en ai marre. En fait, tous les ans, c'est la même histoire avec ces joueurs-là. Je dis ces joueurs-là parce que c'est pas le seul. Alors, c'est tombé sur Camara, tu l'as dit. Hein. Il y en a qui ont été plus discrets, plus vicieux. Alors, soit parce qu'ils sont blessés, soit parce qu'ils sont suspendus et qu'ils ont fait exprès sur cette journée-là, Jean-Louis. Et c'est grave de parler comme ça, mais c'est la réalité. Soit parce que bah, ils mettent un sparadrap. Alors, ça a été le seul dans le championnat à le faire. Mais bon, l'année dernière, ça a été la même histoire. Ils ont arrangé cette journée. Ils l'ont fait différemment, la Ligue, parce qu'ils ont vu que ça posait un problème. Et déjà, ça... Moi, ça m'a posé un gros souci parce que ça veut dire que les combats de la Ligue ne sont pas respectés par la plupart des joueurs. Et c'est toujours les mêmes joueurs en plus. Donc, automatiquement, quand tu signes dans le championnat de France, bordel de bordel, tu sais qu'il y a une charte, il y a une Ligue qui a des certains combats, tu prends le salaire qui est très conséquent sur ces joueurs-là, et ben fais en sorte de te plier... aux coutumes du pays, tout simplement, et au combat de la Ligue. Il y a plusieurs combats sur la Ligue. C'est un délit. Alors après, qu'on n'aime pas, qu'on défende pas plus ce délit qu'un autre, c'est un délit. Donc il n'y a pas à faire une différence de délit. Tu vois, l'homophobie, c'est pas juste une religion. Jean-Louis, c'est un délit. Oui. Donc arrêtez déjà les consultants comme moi. Il y en a qui ont dit des conneries incroyables. Mais comment tu peux, quand tu es, tu commentes un match, que tu fais une émission radio, comment tu peux nous dire, oh ben non, il faut respecter la décision de ce joueur.
Notamment.
Ben non, mais c'est pas possible de parler comme ça.
Ses convictions, faut les respecter.
Mais renseigne-toi avant. Renseigne-toi avant ou explique-nous ce que t'as voulu dire, parce que là, franchement, t'as dit n'importe quoi. Donc non, moi, je suis désolé. Et c'est normal que après, on s'en prenne au ministre, parce que la ministre, elle sort du bois, parce qu'elle attend que ça. Mais elle a raison dans un sens. Des fois, je dis tais-toi, parce que vaut mieux que tu parles d'autre chose, parce que tu connais rien du football. Mais par contre, là, elle a totalement raison. Les dirigeants de Monaco. Moi, je pense qu'ils se sont fait surprendre et qu'ils n'ont pas vu qu'il avait mis un strap, en effet, pour parler de Camara. Comme ils n'ont pas vu Ben Taleb, les dirigeants de Lille, faire semblant de faire ses lacets. Mais tu te rends compte pas où on en est aujourd'hui. Et nous, on doit se plier, on doit dire oh là, ouais, il faut les respecter. Mais respecter quoi? Respecter déjà la France, respecter le football français, respecter les combats de la Ligue, de la Fédé ou tout ce que tu veux. Tu prends des salaires énormes. Tout à l'heure, quand je poussais un coup de gueule à 18h sur le spectacle en Ligue 1, sur l'attractivité de la Ligue 1, sur la bulle là qu'on met. Mais ils sont dans quelle bulle, ces gens-là? Dans quelle bulle ils sont? Mais bordel de bordel, les clubs, prenez vos responsabilités déjà. Que tu convoques Camara quand tu t'appelles l'AS Monaco, que tu convoques Ben Taleb quand tu t'appelles Lille. Mais ça me paraît logique, mais tu dois pas attendre là que ça fasse une affaire d'État, que le ministre sorte, que nous on en fasse des tonnes. Tu dois prendre tes responsabilités tout de suite. Après le match, tu dois le voir. Tu dis oh, hey, t'es payé combien? Est-ce que toi, dans ton contrat, tu as accepté de pas être payé sur tel match parce que tu vas pas le jouer? Parce que oh, mets-le. Si les clubs ont envie de le mettre, il y a pas de problème, ils prendront leurs responsabilités, ils viendront s'expliquer. Mais mets-le. Et les coronesses de perdre ton mois de salaire quand tu vas pas participer à un match comme ça? Non, non, ils préfèrent faire les faux culs. Alors l'autre qui fait la photo comme ça. Non, mais on en est où? Où on en est?
Non, mais tu vois,
en
Jérôme...
fait, non, mais là moi, franchement, Steve, là, ça me rend complètement cinglé.
Je suis complètement d'accord avec toi et ça démontre un petit peu la problématique et les problématiques qui se passent au niveau social dans notre pays, de toute façon. Mais moi, j'insiste aussi sur un truc, c'est que déjà, tout le monde parle et tout. Et je crois qu'on revient toujours à l'éducation, parce que c'est quand même le maître mot de ça. Il y a une différence entre, j'allais dire, de par ses convictions, attention, je finis, de par ses convictions, promouvoir l'homosexualité sur lequel lui, religieusement, il peut s'y opposer, donc la façon individuelle, et puis combattre l'homophobie. Et donc là, c'est deux sujets qui sont quand même un peu opposés, et qui se rejoignent sur une action qui est faite par, déjà d'une, son patron, de deux, par quelque chose qui est très médiatisé, qu'on parle à un jeune public. Et je trouve que ces joueurs sont tellement bêtes qu'ils ne savent même plus faire la distinction entre ce qu'ils pensent individuellement, ce qu'ils doivent combattre individuellement et collectivement, parce que... L'homophobie, c'est tout simplement de la violence envers des personnes qui ont.
Mais c'est un délit, tout simplement. Chose.
C'est ce que j'allais te dire. Mais, et donc, si tu veux, c'est que je pense que ce niveau de bêtise, Mais ces personnes-là, on voit là, moi, la fédération malienne qui promouvoit, là, qui dit, bah, sa liberté d'expression. Je les invite
mais
quand même à regarder.
Mais qui viennent pas jouer là.
Non, attends, je les invite quand même à regarder ce qui se passe quand même au Mali. Voilà, il y a tout n'est pas rose non plus là-bas, et loin d'être rose. Donc en fait, avant d'expliquer comment nous on doit faire chez nous, expliquez-nous comment vous faites chez vous et réglez ce que vous avez à faire. Maintenant en France, il y a des règles. Il y a aussi un cadre général. Donc, comme tout à l'heure, en fait, c'est que quand tu arrives dans un club avec une charte individuelle du club professionnel qui a avec, sous couvert d'une charte collective, mais si t'es pas prêt à assumer tout ça, mais tu sais ce que tu fais. Ben, tu viens pas, en fait.
Oui, c'est ça.
Tout simplement. Et donc, quand tu fais avec un scotch, mais j'ai envie de te dire, mais porte un peu, et comme le disait très bien justement Jérôme tout à l'heure, c'est que va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Vas-y sur les réseaux sociaux. Fais une conférence de presse. Et vas-y, mais mets-toi en avant. Parce que de mettre un scotch et en plus aller au match. Quel message. Et donc là, maintenant, je finis. Nos instances, je parle pas État, mais nos instances du foot ne sont pas respectées. C'est pour ça qu'ils ne sont pas, je vais pas dire, aimés. C'est pour ça qu'ils ne, on n'arrive pas à adhérer à ce qu'ils disent. Parce qu'en fait, sur des combats essentiels qui font que nous sommes société, vous n'arrivez même pas à vous imposer, à vous faire respecter. Donc, à un moment donné, bah, soit vous vous faites respecter, soit à un moment donné, bah, ça, excusez-moi le terme, ça part en couille.
Jean-Michel, est-ce qu'il y a trop de laxisme sur ces sujets, notamment de la part des clubs?
Non, je crois qu'il y a surtout de l'ignorance. Je ne sais pas qui.
Oui, c'est ça.
Je crois que Jérôme parlait d'éducation. Le problème, c'est qu'on sait très bien qu'un club de football est sur un terrain de football. D'ailleurs, je crois que j'ai vu, moi, des associations où c'était clairement indiqué, non, à un moment donné, on ne parle pas de faits, où il n'y a pas de prosélytisme sur des faits religieux ou des faits politiques. D'accord, mais le problème, c'est que pour eux, ces problèmes-là ne sont pas des faits de société. C'est pas des, comme tu le disais, c'est pas des délits. Pour eux, c'est une option politique, c'est presque une option religieuse. Donc, pour eux, il y a une confusion qui fait que ils sont pas à l'aise dans l'affaire et ils prennent des décisions à contresens complètement parce qu'ils sont pas éduqués, parce que on les a pas éduqués dans ce sens-là en leur disant que l'homophobie, il fallait lutter ça parce que c'était un fait de société. Ça n'a rien à voir avec un fait religieux. Ça n'a rien à voir avec un fait politique. Donc,
rassure-moi, Jean-Michel, ils le savent.
Non, ils ne le savent pas. Je t'assure, Jérôme. Je voudrais.
Tu as raison, Jean-Michel. Il y a une confusion.
Je voudrais. S'ils le savent, c'est encore. Mais je pense que chez certains, il y a une confusion qui fait que il y a des gouvernements.
Jean-Michel, le travail pédagogique est fait, hein. Les assauts de lutte contre l'homophobie passent dans les clubs.
Ben c'est pour ça.
Je connais bien Johan Lemaire, je connais très très bien, et ils essaient de faire leur boulot, mais je pense que chez certains, il y a là-dedans une connotation politique ou religieuse, ou les deux, j'en sais rien. Qui fait que pour eux, c'est ils disaient pas forcément qu'ils sont pour, mais ça les dérange.
Il n'y a pas de question entre promotion de l'homosexualité et lutte contre l'homophobie, c'est tout. On va donner la parole dans une seconde à Attila, qui a fait le 32-16. Est-ce que les clubs sont trop laxistes sur ces questions 32-16 pour vous donner la parole?
Et les clubs sont démunis.
Ouais.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h18 sur RMC. On est là, toujours là, à parler dans Roten sans flamme de bons débats et des débats qui nous énervent très souvent avec Jean-Louis Tour, avec Jean-Michel Larquet et avec Steve Savidan. Oui, on parle de la lutte contre l'homophobie qui a encore fait parler sur cette journée de championnat.
Oui, alors.
Et on continue d'en parler avec un auditeur.
On sera avec Eric Roy tout à l'heure, l'entraîneur de Brest.
En plus.
Et on signale quand même jeunes, qu'on s'attarde forcément sur les trains qui n'arrivent pas à l'heure, comme Camara. Il y a aussi eu plein de matchs où ça s'est passé sans problème, où des joueurs ont joué le jeu, peut-être plus même que les saisons précédentes. Hein. Donc il y a quand même un progrès, même s'il y a toujours ces cas problématiques, ouais, comme le cas Camara.
À force de l'expliquer, peut-être qu'ils arrivent à le comprendre. Ouais. Voilà,
Alors, on va donner la parole à Attila.
La roue signale
pour la roue et les 20 000 euros, c'est maintenant que ça se joue. Vous envoyez roue, R-O-U-E, par SMS au 732-16 pour vous inscrire. Sur la polémique Camara, les clubs sont-ils trop laxistes? Donc Attila est là, Jérôme.
Salut Attila.
Oui, bonsoir les gars.
Bienvenue Attila.
Salut Attila.
Bon, merci. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur...
Déjà, la première des choses, moi je suis pas contre quoi que ce soit. Moi je suis pour le respect. Le respect des opinions, le respect des orientations, de la religion, chacun fait ce qu'il veut. Et je reviens juste sur quelque chose que Jean-Michel disait tout à l'heure, sur la religion. Moi, je suis musulman. Et dans l'islam, il n'y a pas de on n'est pas contre les homosexuels. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie et paiera l'addition de l'autre côté. Ça, c'est juste pour le côté religieux. Mais l'autre point où je m'interroge, moi, c'est sur le débat sociétal. C'est quoi la responsabilité des clubs? Enfin, on s'arrête où? Enfin, est-ce que c'est à la police? C'est la police des mœurs, maintenant, les clubs? C'est à eux de dire aux joueurs ce qu'ils doivent penser, etc.
Bah si c'est un délit, je comprends pas en fait ta question là.
Délit de quoi?
L'homophobie, c'est pas une opinion. Arrête un peu. Là, tu vas m'énerver. Attends, l'homophobie, c'est un délit. Là, c'est de la haine. Ça n'a rien à voir.
On est tout à fait d'accord.
Alors qu'est-ce que tu me parles d'opinion? C'est pas une opinion.
Ah mais regarde sur quoi vous êtes parti. Vous êtes parti de deux gars qui disent on n'est pas pour la lutte contre l'homophobie, ou je sais pas, ça dépend de leur point de vue, je sais pas moi comment ils ont compris.
Non, eux ils ont pas parlé, ils ont rien dit, ils ont juste fait en sorte
que j'ai l'impression que si t'es pas pour, t'es contre. Enfin, le débat, c'est 0-1.
Mais t'as pas à être pour ou contre. Il n'y a pas à être pour ou contre. C'est un délit, je te dis. C'est comme le racisme. Oui. Le racisme, t'es pas pour ou contre. T'es contre le racisme, on est d'accord. Donc pourquoi t'es pas contre l'homophobie? C'est un délit. Il y a des gens qui sont homosexuels et qui meurent. Qui meurent parce qu'il y a de la haine contre eux.
À quel moment je t'ai dit que je suis pas contre l'homophobie?
Mais tu me dis, tu me dis oui.
Moi, je te dis juste que c'est pas au club de faire la police.
Mais c'est pas les clubs, c'est la ligue. Je peux pas te laisser dire ça. Tu ne dis pas ça dans mon émission qui porte mon nom. Je te dis juste que c'est pas une opinion, c'est un débat, c'est un délit, c'est quelque chose qui est mis en avant par la ligue. Ils ont des comme le racisme, il y a une journée contre le racisme. Contre l'homophobie. Si tu n'es pas pour ça, pour soutenir ces causes-là, ces délits-là, eh ben écoute, tu sais quoi, tu n'as rien à faire en France. Voilà, il doit se plier aux règles de la France.
Aux joueurs, ils sont là pour jouer au foot. C'est pas à la Ligue, c'est pas aux joueurs de faire la promotion de toutes les journées, etc. Mais non, en plus, on est dans un pays où 30% des gens votent extrême droite. Enfin, s'il te plaît, venez pas me faire la morale là-dessus.
Attila,
juste finir. Enfin, à aucun moment, j'estime que être homophobe, être raciste, être contre qui que ce soit ou les opinions des autres, c'est tolérable. Je répète, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Ce que je veux juste dire, c'est que là, il y avait des gens. Moi, je voudrais bien comprendre pourquoi ces deux gars, ils ont agi comme ça. C'est quoi leur débat de conscience? Une fois qu'on a ça, là on peut se prononcer. Ces deux gars sur combien?
Alors, Jean-Michel,
il y en a pas deux.
Attila, simplement parce que ces deux gars ont le même raisonnement que toi. C'est-à-dire que nous, dans notre raisonnement, on a bien expliqué qu'il n'y avait aucun rapport avec un fait religieux et un fait politique. Et
ah oui, toi, on est bien d'accord avec ça.
Non, mais toi, dans ton raisonnement et dans la présentation que tu nous fais pour exonérer ces gars de toute responsabilité, Attila, tu as dit deux choses qui, pour moi, sont essentielles et qui prouvent qu'il y a un mélange des genres. La première chose, c'est que tu as parlé de religion.
Moi, j'ai entendu ça tout à l'heure de ta part.
Non, mais c'est toi qui l'as parlé. C'est pas moi. C'est toi.
J'ai entendu fait religieux.
Et deuxième point. Et deuxième point, Attila. Je t'ai laissé parler. Tu me laisses juste terminer. Deuxième point. Après le fait religieux, ou en tout cas un rapprochement, une connotation avec la religion, tu as parlé de fait politique.
tu as parlé des 30% qui votaient extrême droite. Est-ce que nous, à un moment ou à un autre, on a parlé du Rassemblement national et des musulmans? Non. Et c'est là, et c'est là où il y a un problème, Attila. C'est que vous ne savez pas serrer les choses. Il y a des choses qui sont des opinions et il y a des choses qui sont des délits. Le voter à droite ou voter à gauche, être musulman ou être catholique, ce sont des avis, c'est la foi, c'est les opinions. Être contre l'homophobie, c'est être pour l'homophobie, plutôt. C'est un délit. C'est là où vous n'arrivez pas. C'est là où vous le faites. C'est vous qui faites le mélange.
Mais oui. Je ne remets pas en cause.
Alors, vas-y, Attila.
Et parce que ça vous arrange.
Réponds à ça, Attila.
Moi, j'arrive. En fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que là, je ne suis pas en train de remettre en cause le fait que l'homophobie soit un délit. À aucun moment.
Oui.
Ce que je remets en cause, c'est où s'arrête la responsabilité des clubs. Vous me parlez de la Ligue, la question c'était les clubs. C'était pas la Ligue, Jérôme.
Oui, la question c'était les clubs.
La Ligue, maintenant elle fait son travail. La Ligue, elle a décidé qu'on devait faire une journée contre l'homophobie, elle décide qu'on doit en faire une contre le racisme.
Oui.
Elle décide demain qu'on doit en faire une pour toute autre raison.
C'est la Ligue. Pour le sida,
et
par
effectivement,
exemple.
Et effectivement, derrière, elle doit sanctionner. Et je suis content que pour une fois, parce que pour moi, un truc comme la VAR, bon, on peut en venir une autre fois, c'est juste parce que parfois ils n'ont pas le courage de prendre des sanctions. Là, s'ils le font, tant mieux.
Okay.
Mais c'est pas au club. C'est pas au club de faire la police.
C'était le débat. Est-ce que ça doit être à la Ligue et au club? On va arriver au bout là,
quand j'ai appelé. Oui. Je finis juste. L'exemple que je prenais quand j'ai appelé, c'était par exemple Marseille-Lyon. C'est un tout autre truc. Mais regarde, il y a eu des événements intolérables avant Marseille-Lyon. On s'est dit, mais c'est au club de s'assurer de la sécurité des joueurs lyonnais du début à la fin. Mais non, il y a des limites. Les limites, c'est le stade.
Oui, mais là, le match avait bien lieu dans le stade.
Et là, je suis désolé, c'est à la Ligue. C'est la Ligue
d'assumer. En tout cas, c'est la commission discipline de la Ligue qui va prendre les sanctions. Et notre débat, c'était de savoir si les clubs aussi devaient le faire.
Les clubs, ils n'ont qu'à pas les prendre, ces joueurs-là.
Fais une dernière proposition, Attila.
Et pour répondre à ta question, Attila.
Pourquoi on ne demanderait pas aux joueurs? Laisse-moi juste finir, Jérôme.
Vas-y.
Je t'en prie.
Non.
Pourquoi on ne demanderait pas aux joueurs? Qu'est-ce qu'ils veulent faire?
Alors ça, ils ont été mis dans la discussion. Là, ils ont été mis dans la discussion cette fois.
Les gars, on a un truc qui nous embête. Non, mais Attila. Un truc vraiment qui nous embête.
Allez, il faut vraiment conclure.
Non, je voudrais, Attila, quand tu fais partie d'une équipe, tu fais partie d'une équipe pour le meilleur et pour le pire. À partir du moment où la majorité a décidé que ce serait ainsi, on se plie à la majorité.
Allez, on arrive sur ce sujet.
Et chacun ne fait pas autrement. C'est,
moi, je trouve dommage qu'on n'ait pas impliqué les joueurs, quand même.
Allez, mais ils ont été impliqués. Yoann Leber l'a expliqué à plusieurs reprises, notamment sur RMC, en disant que fois, l'initiative a été validée par de nombreux joueurs et qu'il a justement pris l'avis des joueurs et des entraîneurs. Ce qui n'avait pas été le cas sur les saisons précédentes.
Sacré Yoann.
À bientôt, Attila, en tout cas. Merci d'être venu défendre ton point de vue sur RMC, même si certaines choses,
on l'a dit. Mais ça me révolte.
Du calme, c'était à ton âge.
Ça me révolte, Jean-Michel, c'est tout. Et je vais te dire comme quoi, Camara, il en fait une histoire religieuse. C'est que le lendemain, il a fait allez voir le post Insta, qui est en réponse à cette polémique.
Allez,
et vous verrez s'il comprend pas.
J'étais pas au courant de ça.
Dans une seconde, on va reparler foot. Éric Roy, l'entraîneur de Brest, sera notre invité. À tout de suite.
RMC, 18h-20h. Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h32 sur RMC. On est là, on est bien. Il reste une petite demi-heure dans Roten sans flamme avec Steve Savidan, avec Jean-Michel Larquet, avec Jean-Louis Tour. Dans 15 minutes, ce sera le moment du quiz de Julien Cazard pour vous faire gagner un beau cadeau. Mais là, on a notre invité exceptionnel, le meilleur coach de Ligue 1 qui va être là, Éric Roy.
Et oui. Jean-Louis. Et le quiz, vous pouvez vous inscrire en envoyant top au 732-16. Il y a une enceinte de Lexon à gagner. Il est là, le meilleur entraîneur de l'année. Éric Roy, l'entraîneur de Brest, est en direct dans Roten
sans flamme. On le reçoit comment? Salut Éric.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
T'es avec Jean-Michel Larquet et Steve Savidan.
Et Jérôme Roten.
Voilà. C'est plaisir. Surtout Jean-Michel et Steve. Je croise de temps en temps dans le sud.
Tu parles à un ancien coéquipier comme ça.
En fait, c'est vrai, on a joué ensemble à trois. Enfin, t'as joué beaucoup avec moi surtout à cette époque. Mais c'est vrai qu'on a été ensemble. J'essaie de mettre la hauteur de votre émission, tu vois.
Ouais, exact.
T'as compris les ficelles, visiblement.
Eric, tu vois, j'ai fait comme avec Didier Deschamps. Je l'ai fait devenir coach champion du monde et toi, meilleur entraîneur de Ligue 1.
Merci.
Voilà.
Merci, je suis reconnaissant de ça.
Bon, écoute, déjà, non, mais blague à part, bravo déjà pour la saison parce qu'elle était quand même remarquable. Je vais pas te dire que j'y croyais parce que je pensais que vous alliez craquer et vous n'avez pas craqué. Donc bravo pour ça, déjà d'avoir maintenu ce groupe aussi fort jusqu'à la fin. Est-ce que déjà, pour toi, vu que tu viens un peu de la galère, un peu beaucoup même, est-ce que c'est une fierté d'avoir été élu meilleur entraîneur de Ligue 1?
Oh, c'est une fierté d'avoir été élu, et surtout par mes pairs, mais c'est pas une fierté par rapport à mon parcours, parce que comme tu dis, bon, je sors pas de la galère dans le sens que moi j'ai toujours évolué dans le foot notamment, qui est ma passion depuis toujours, et en tant que joueur, et puis après dans divers métiers à travers le foot. Après, effectivement, ce que je souhaitais après mon passage à Nice, où j'avais été nommé un peu coach à la surprise générale, parce que même il m'a demandé de faire cette opération sauvetage, mais c'était même pas prévu pour moi. Et après, j'ai pris tellement de plaisir, si tu veux, qu'après, en passant mes diplômes, j'espérais retrouver un banc. Le problème, c'est que ce banc est jamais venu. Et c'est vrai que du coup, j'ai fait d'autres choses. Mais en tous les cas, aujourd'hui, j'ai l'impression que d'avoir eu cette période inactive sur un banc, si tu veux, j'ai retrouvé cette année au centuple les émotions, le plaisir, tout ce qui peut concerner en tous les cas la vie d'un entraîneur. Quoi.
Est-ce que toi-même, tu t'es surpris à faire cette saison-là, à transmettre autant d'énergie, de force à cette équipe?
Surpris, enfin moi personnellement par rapport à mon groupe, non, parce que je me connais aussi, je pense être... j'ai jamais perdu confiance dans le fait que je pouvais emmener un groupe, et dans le mot entraîneur, il y a entraîner, quoi, donc et être entraînant surtout. Donc j'ai jamais perdu cette confiance-là. Après, de dire que je suis surpris et que même les joueurs et le groupe soient surpris, parce qu'on a préparé quand même notre saison au départ pour vivre un maintien plus tranquille que l'année précédente. C'était ça un petit peu les mots des joueurs, parce que moi je suis beaucoup dans l'échange et beaucoup dans la vision d'avoir un management aussi participatif avec les joueurs. Mmh. Et ce qui revenait beaucoup, c'était de vivre une saison plus tranquille et qu'on ait un maintien plus aisé. Donc voilà, c'est ça. Après, forcément, au bout de la sixième journée, t'es premier du championnat. L'équipe se prend au jeu, l'équipe progresse, parce que tu sais comment ça se passe quand la confiance est là, les joueurs sont capables de plus de choses. Et puis, les matchs arrivant, les matchs succédants, les performances aussi, les contenus de match étant toujours, souvent, très souvent au rendez-vous, ça a fait, le final que l'on a connu. Quoi.
Eric, Jean-Michel, une question pour vous.
Eric, dans le sprint final, il se trouve que les deux contre-performances de la saison, vous les subissez à l'occasion de l'avant-dernier et de l'antépénultième match, je crois. C'est Nantes et Reims.
Deux
matchs nuls. Là, tu penses que l'affaire est bouclée et que vous ne serez pas qualifié directement?
C'est vrai qu'après ces deux matchs à domicile où tout le monde nous voyait gagner, mais... Je veux dire, de l'extérieur, les gens ne savaient pas que on avait un peu nos forces vives, et notamment nos forces vives dans la créativité du jeu étaient sur le plan. Je parle de Romain Del Castillo, je parle de Pierre Lesmélou pour ces deux matchs, et d'autres qui nous ont manqué aussi sur ce sprint final. Donc, j'étais pas complètement déçu parce que contre Nantes, on n'avait pas eu les armes, pas du tout. On a eu beaucoup en plus d'événements contraires. Contre Reims, je pense qu'en deuxième mi-temps, on aurait pu gagner ce match parce qu'on avait les situations. On n'avait pas su le faire, donc c'est vrai que quelque part, je m'étais dit que on avait un petit peu raté notre chance. En tous les cas, d'aller attraper cette quatrième place, parce que avant le dernier match, on savait qu'on pouvait être que minimum quatrième. Donc d'aller sur cette troisième place. Donc c'est vrai que il y avait de ça, mais dans la préparation du match et en ayant perdu encore sur le dernier match contre Toulouse. Un joueur pratiquement à chaque entraînement, parce que est venu se rajouter aux deux que j'ai cités, Bradley Loco qui était suspendu, alors que Pierre Lesmélou, Bradley Loco sont en équipe type de la saison. Donc c'est pour dire les joueurs
importants. Ce qui t'a obligé à faire jouer des garçons qui n'avaient
Exactement.
Jordan Amavi est bien coup franc.
On passe à Mavi, notamment.
Tu perds Jonas Martin, tu perds Julien Le Cardinal, donc des forces vives aussi souvent qui t'apportaient des choses quand d'autres étaient blessés. Et c'est vrai que tu prépares ce match-là avec un effectif qui a amoindri, mais un effectif qui a toujours autant de d'ambition et pour certains, comme vous l'avez cité, notamment Jordan, bah de prouver que voilà, ils ont travaillé toute l'année, il a eu une mentalité exemplaire. Il a été blessé 2-3 fois, mais il est surtout tombé sur un bras des locaux qui a été étincelant tout au long de la saison. Et que tu le mets, c'est pas que tu le mets sans appréhension, mais presque, parce que tu te dis, et en fait, la magie, elle opère dans le sens que il est récompensé, en fait, de tous les efforts qu'il a fait toute l'année, quoi.
Et Eric Roy en direct sur RMC dans Rotten sans flamme. Est-ce qu'on est sûr à 100% de vous voir sur le banc de Brest la saison prochaine en Ligue des Champions, Eric? Vous avez un contrat jusqu'en 2025?
Ouais, j'ai encore un an de contrat, donc c'est vrai que moi, aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, on ne voit pas ailleurs qu'à Brest. Maintenant, on sait que l'instabilité du mercato, elle est pour tout le monde. Et puis cette année, elle est aussi sur les directeurs sportifs. Donc,
alors voilà.
Est-ce que le meilleur entraîneur de France a eu des sollicitations? Je ne le dirai pas, Denis Le Saint. Hein, je te le dis tout de suite.
Non. J'ai été appelé, alors paradoxalement, par des clubs étrangers. Donc voilà. Mais aujourd'hui, moi, je compte pas partir du championnat de France. Moi, je vous parle. Donc,
alors, il y a un mercato des directeurs sportifs. Est-ce que justement le fait que Grégory Lorenzi reste ou non peut jouer dans votre choix? Et est-ce que vous avez des infos pour savoir s'il va rester ou non?
Alors, j'ai aucune info. Je pense que c'est malheureusement à lui qu'il faut poser la question. Je sais qu'on est dans une semaine décisive parce qu'il rencontre le président, le board, enfin pour lui effectivement déterminer ensemble une feuille de route. Si cette feuille de route, elle le satisfait...
La feuille de route, c'est une façon gentille de dire est-ce que vous allez avoir des moyens pour recruter cet été.
Oui, mais c'est même pas gentil, c'est la traduction exacte de ça. C'est-à-dire, voilà, on ne demande pas, nous, personnellement, d'avoir des sommes faramineuses et de mettre en danger le club. Et je pense que je préférerais dans un club avec le modèle économique qui est le nôtre, qui ne va pas dépenser l'argent qu'il n'a pas, qui ne va pas mettre en péril un club, et on l'a vu dans le passé que c'est arrivé à certains clubs, qui va pas se prendre pour ce qu'il est pas.
Y compris à Brest.
Qui va pas se prendre, qui va pas se prendre pour ce qu'il est pas, mais en même temps d'avoir quand même des choses un peu arrêtées, factuelles, de dire voilà, vous avez une enveloppe de temps, est-ce que tu es capable avec ça de renforcer l'équipe, parce que l'objectif c'est toujours pareil, c'est de renforcer l'équipe. Si c'est faire une saison comme on a fait pour l'année prochaine, avoir une équipe moins bonne.
Je vois pas l'intérêt.
C'est un petit peu dommage. Ouais,
donc avec cette vision des choses, Eric, on est d'accord que mine de rien, vous êtes obligé de prendre des risques aussi. Et je te dis pas qu'il faut dépenser des millions que vous n'avez pas, mais la prise de risque, elle doit exister. Sinon, tu le sais aussi bien que moi, voire mieux. Maintenant que t'es sur le banc de Ligue 1, l'année prochaine avec la Ligue des Champions, vous allez exploser en plein vol si l'équipe elle se renforce.
Il faut garder les meilleurs et se renforcer. Mais...
On est exactement d'accord dans le sens que déjà on a 8 matchs garantis de plus dans cette saison, ce qui fait presque un quart de la saison. Bon, on sait très bien que nous, par rapport à notre effectif, ce qu'on veut surtout renforcer, si tu veux, c'est de notre 14e, 15e au 22e joueur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que si on arrive à garder nos forces vives, si on arrive à... Idéalement, ça serait d'avoir des doublures à chaque poste, comme on avait cette année, mais de même niveau que le titulaire, ou pratiquement. Ce qui te permet justement de faire, je veux dire, tourner ton effectif selon les matchs et en gardant un niveau de jeu qui soit de ce qu'on a pu produire cette année. Après, tu parles de prendre des risques, mais de toute façon, Brest est un club qui prend chaque année des risques malgré tout parce qu'il a pas beaucoup de moyens.
Et oui.
Il est toujours obligé de faire des paris un petit peu. Donc comme on a fait le pari de Bradley cette année qui s'est avéré payant. Il faut pas oublier que Bradley était un joueur qui était plus désiré à Reims.
Exactement.
Il est venu chez nous.
Et
voilà, c'est qu'à un moment donné, t'es là pour soit relancer des joueurs, soit faire éclore des joueurs qui sont jeunes et qui n'ont pas le temps de jouer ailleurs. Et il y a eu une filière à un moment donné de Greg Lorenzi avec Monaco, quand il a fait venir le petit Fèvre, quand il avait fait venir aussi le défenseur. Donc, voilà, donc nous, on aura des paris de toute façon à tenter. Et puis après, c'est à la fin de la saison qu'on saura si ce sera des paris gagnants.
Eric, j'ai une dernière question. Je pense qu'il doit y avoir de la frustration. Mais quand tu sais que la Ligue des Champions, tu ne peux pas la jouer dans ton stade et que tu vas aller à Guingamp ou à Rennes.
Probablement à Guingamp.
Ça fait mal au cœur quand même.
Et ça fait mal au cœur, alors, pour deux raisons,
peut-être au Stade de France.
Oh non.
Mais alors, le problème, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où tu finis un match, Vraiment, tu dis, pardon, tu définis un stade avec l'UEFA. Tu peux pas, je te dis, par exemple, tu joues, bon, vous avez vu la nouvelle formule. Bon, moi, j'y comprends toujours rien, mais bon, on va m'expliquer à un moment donné, mais a priori, c'est un championnat à 36 clubs. Et dans ces 36 clubs, tu joues contre 8 clubs.
Oui, c'est ça.
Et t'en joues 4 à domicile et 4 à l'extérieur. Ouais. Donc, dans le tirage au sort, c'est 36, les 8 clubs qu'on affrontera. J'ai dit une bêtise. Imaginons qu'à un moment donné, on est, Sporting. Et que le Sporting, on joue au Rodourou, et qu'après on a le match contre le Real Madrid, et que le club, parce que le Real Madrid peut-être remplirait le Stade de France, pas pour nous, mais pour le Real Madrid, et tu peux pas le faire parce que tu auras défini que tu jouerais au Rodourou.
Eh oui, 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 bien sûr. Dire, bien sûr.
Pas, bah comme t'es un homme de Paris, prends le Stade de France tout de suite.
Ça, mais bon, bah, à la limite, ça c'est pas mon rôle, et c'est pas moi qui vais,
bah oui, oui.
Qui vais choisir ça. La déception, donc, c'est forcément de pas jouer à domicile parce que tu entends un peu tout, la sécurité, les choses comme ça, mais après j'ai envie de dire, donc ça veut dire que nous en France on fait prendre des risques à nos supporters d'avoir un match à Leblé, quoi. Je veux dire,
d'accord.
Donc, bon, donc il y a des choses, le cahier des charges, l'UEFA, tout ça. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que ça, c'est dommage.
La recette de l'UEFA serait moindre, tu comprends.
Et là,
il faut qu'il mange quand même.
Allez, il faut qu'on conclue avec Eric, c'était très intéressant.
Et donc après, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, c'est 8 matchs en plus que tu vas jouer sur la saison. Et qu'on va devoir intégrer, planifier tout ça, là, c'est 8 matchs à l'extérieur.
Et c'est ça. Bon. Alors, bah, Guingamp, c'est peut-être le plus proche.
Eric,
on a plus le temps, Jean-Michel.
Eric, la DRDDR.
J'ai aucune idée.
Eric, ça veut dire qu'avec aujourd'hui, fin mai, début juin, vous avez déjà préparé la saison prochaine avec Greg Lorenzi.
En tous les cas, on la prépare avec Greg. Jusqu'à maintenant, 5 minutes avant de vous avoir, je parlais avec lui. Donc, on la prépare. Maintenant, en foot, hein. Je sais pas ce qui sera dans.
Bon, d'accord.
Et on en reparlera si effectivement il y a des évolutions.
Merci Eric, okay, d'être venu sur RMC.
Bonne vacances quand même, essaye de couper. Hein.
Ah là, je coupe, t'inquiète.
Bon, pas trop quand même. Hein. Allez, merci Eric Roy, à bientôt. L'entraîneur de Brest était en direct avec nous. Dans une seconde, le quiz.
RMC, jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h47 sur RMC, on est là, on est bien. Il reste 10 minutes dans Rotten sans flamme et c'est le quiz de Julien Cazard avec une équipe qui n'a pas gagné un match. Hein. Ensemble, c'est Steve Savidan et Jean-Michel Larquet contre moi et mon joker Jean-Louis Tour.
Contre ton
auditeurs.
Joker et toi, si je sois poli.
Non,
mais là, on est chez Rotten. Là. Allez, on y va.
Ah bah d'accord, ouais.
Comment s'appelle l'émission ?
Rotten contre le reste du monde, saison 3.
Non, c'est le joker contre le reste du monde avec Jérôme.
Une enceinte Lexon a gagné, soit pour Arnaud, soit pour Robert. Bonsoir à tous les deux.
Salut Robert.
Salut, bonsoir.
Bienvenue. Hey Bob.
Arnaud, t'as gagné le tirage au sort puisque t'es supporter de Bordeaux. Donc tu veux faire équipe avec Jérôme ou avec le reste du monde?
Eh ben, je vais faire équipe avec la meilleure patte gauche de la radio. Bah, du coup, Jérôme.
Allez, on y va. Attends, il y a qui d'autre? Manu Petit, nul. Manu, c'est nul.
C'est un défenseur.
Bon, Robert, t'es avec le reste du monde.
Ouais. Bon, question flash. Attention.
Qui c'est qui vient de se blesser au doigt chez les
Maignan.
Maignan.
Bonne réponse.
1-0 pour Savidan.
Steve.
Il est blessé le doigt.
Et voilà, ça pique, ouais, hein. C'est pas bon signe.
C'est
pas,
non, tout va bien en ce moment. Je trouve
Est, ouais, bah, c'est, ça compte pas quand t'es gardien le doigt. Qui c'est qui?
Il en a 9 autres.
Bien sûr.
Qui c'est qui? Quel coach risque de bientôt faire la police dans le groupe barcelonais?
Flic.
Flic, bonne réponse. Il est là, Steve. Il est chaud.
Steve.
Putain.
Steve mène 2-0 contre Jérôme.
C'est une machine, Steve. On va se réveiller, Jérôme. Question double-double. On l'annonce avant. Question double-double.
Ah oui, vaut mieux l'annoncer.
Eh bien, hier, c'est bien, mais je fais ce que je veux déjà. Hein. Qui est le premier buteur allemand de Bundesliga?
Füllkrug.
Non.
Non.
Ah bon?
Non.
Ah ben,
c'est pas lui, Didam. C'est pas lui.
On pose des noms.
Bah attends,
proposez des noms, les mecs, vous regardez un peu la. Je vais vous aider, il a joué en Belgique à la Saint-Gilloise.
Là, je vous aide là.
Wirtz.
Pas du tout. Adli. Il est meilleur dans les meilleurs buzzers.
Il a un
Adli.
Nom.
Adli, non, pas.
Non.
Wirtz, oh, non.
Adli, son commence par un U.
Adli, oui,
son nom commence par un U.
Ah oui, facile.
U.
Hummels. Ulule, ululé.
Ça devient dur, non? Ça devient dur. Bon, allez, je vous demande. Quand je pense que je vais vous en demander un deuxième, ça va être.
Ulala!
Hula, 36-15 Hula, c'est lui. Il a scoré, lui. Il a scoré dans les années 90. Non, non, c'était Undav.
Ouais.
Ça vous dit rien, en plus.
Non,
hein.
Je ne l'avais pas.
Il est sélectionné avec l'équipe d'Allemagne. Hein.
Oui, mais je ne l'avais pas, je l'avais pas.
Et le deuxième, c'est Beyer. Alors là, n'en parlons même pas.
Nous sort pas ta science, tu l'as regardé avant le match.
Je le connaissais, de la Saint-Gilloise.
Avant l'émission.
Oui, oui, je le connaissais. Polo avait peut-être raison sur les consultants.
Il connaissait Undav.
Il faudrait qu'on parle quand même.
Il venait de la Saint-Gilloise.
Il est un joueur qui.
Ça sert à rien, les consultants.
Ça sert à rien, ils connaissent rien.
Ils font lui, les consultants.
Attention. Et là, ça va être encore pire. Qui c'est qui est tout pourri? Donc là, je mets encore plus pourri que les autres d'habitude. Dans le match d'hier, hier soir, quel John fait flipper les services de sécurité et les met en alerte? Quel John fait flipper les services de sécurité et les met
John
en alerte?
Anderson, John
Lockman.
John Lockman. Il fait flipper les services de sécurité, John. Ils sont
John
en alerte.
Rambo.
John
Rambo.
John Scamacca.
Il joue en défense.
John Travolta.
John Travolta. Presque.
John de Tapsoba.
T'as dit quoi?
Tapsoba.
Non.
John Tapsoba.
Non.
C'est pas un truc avec Travolta.
John Ta.
Non, vous l'avez pas.
Rudy
Attentat. John Attentat.
Il avait joué dans le film. Il a joué dans le film Grèce.
Ouais.
Il va dire John Attentat. Et il est pourri, hein.
Mais non, mais Attan, c'est son prénom.
Ouais,
mon Dieu, mon
John Attentat. C'est John Attentat.
Il est
pourri. Il est pourri. Il vient de comprendre.
Mais toi, ça te fait rien,
toi. Mais c'est nul.
John Attentat.
Merci.
Allez, qui que c'est, plus facile.
2-0, il n'y a pas de point marqué, là.
Quel joueur du match d'hier?
Joker.
Il a un Joker. C'est un contre-joker. Il joue pour les autres,
Quentin.
Pour le reste du monde.
C'est ce qu'il fait, Quentin.
Quel joueur du match d'hier soir se la raconte au tennis de table?
Musso.
Lookman.
Allô.
Gastien.
Il jouait hier à la finale, Gastien. Il se la raconte au tennis de table. Frimpong, bien sûr. Il frime au ping-pong.
3-3.
On est là.
Bien joué, Steve. Bien
question
joué
à 2 points.
3-0.
Question à 2 points.
3-3.
Je me suis trompé.
Question à 2 points.
Vas-y.
Mon premier est un félin. Mon deuxième est avec le bœuf dans l'étable. Mon troisième est en altitude. Mon quatrième est un bruit de gosier. Et mon tout est un des meilleurs passeurs de Serie A.
C'est trop vite.
Et il joue à Milan.
Pas une, moi.
Mon premier est un félin. Mon deuxième est avec le bœuf dans l'étable. Mon troisième est en altitude. Mon quatrième est un bruit de gosier. Quand on avale. De l'alcool notamment. Mon tout est un des meilleurs passeurs de Serie A. Et il joue à Milan.
Milan AC ou
putain.
Ah, j'ai pas dit où. Il joue à Milan.
Chalanoglu.
Chalanoglu, bonne réponse. L'âne avec le bœuf. Oh, et glou.
Ah non, bœuf, j'étais sur
glou.
Veau, moi.
Ah, dans les tables, le bœuf est là, l'âne et le bœuf.
Allez, vas-y, 3-2.
D'accord, ok, d'accord.
Prends un joker.
3-2 pour le reste.
Avec le bœuf, il y avait deux sacs.
Prends un joker.
Tu peux pas le mettre contre.
Et le joker, c'est Daniel Riolo.
Impossible, il torture un communiste dans sa cave.
Bon, ben alors, c'est Jean-Louis qui va faire Daniel.
Ah oui. Ah, c'est chaud. On va faire une petite question. Qui les unit? Qui les unit? Je vais vous donner deux noms. Il faut trouver. C'est un quoi qui kiffe entre deux personnes. Qui les unit? Qui est assez rare. Jupp Heynckes, Carlo Ancelotti.
Comment? Mais trois Ligues des Champions.
Mais non, pas du tout.
Ligue des Champions aux deux clubs différents.
Que
non, ils ont entraîné le Real et le Bayern.
Ils ont entraîné le Real et le Bayern. Bonne réponse. C'est tout, Jérôme Rotin.
3-3.
Qui? Non, c'était deux points.
Qui Kawej ici?
Non, c'était un point.
Qui Kawej ici? Milan AC, Chelsea, Dortmund.
Waouh.
Milan AC, Chelsea, Dortmund.
Milan AC, Chelsea,
Dortmund.
C'est quoi l'ordre? Tu peux me dire?
Il est américain.
Américain? Ah oui, je l'ai.
Where?
C'est, dans son nom, on dirait plutôt qu'il est d'Europe de l'Est.
Pulisic,
bonne réponse. Dao, Junior League, Dao's Fan Club.
Dernière question.
Dernière question, c'est une question Larquet, obligé.
Oh. Let's go.
Salut, c'est Jean-Michel Larquet sur RMC.
C'est moi le dinosaure.
T'as aimé Jean-Louis ma petite story Instagram tout à l'heure? T'avais vu le détail hein, du petit dinosaure.
Deux points, c'est balle de match.
Ouais. Balle de match.
Oui, j'ai vu.
Balle de match, ouais.
Ouais, 1987, dernière année de Michel Platini en Serie A. Grosse émotion. Mais citez-moi un des trois meilleurs buteurs cette année-là.
Maradona.
Non.
Pas Maradona, pas Boniek.
Non. Il y a un joueur qui était à la Sampdoria, qui était très jeune.
Ah oui.
Viali.
Viali. Bonne réponse à la question Larquet de Jean-Michel Larquet.
Victoire du reste du monde et de Robert.
Maradona, il n'y est pas.
Et t'as pas gagné une, c'est...
Exxon, marque française d'objets design et connectés, vous offre le cadeau idéal pour tous les amateurs de déco et de design. Découvrez les coffrets et objets dans les grands magasins et sur lexon-design.com.
Génération After, tout de suite avec Nico Jamain.
Salut Jean-Louis, salut Jérôme, il est là. Ce soir, on reçoit un invité exceptionnel, un homme qui est 6 fois champion de France, qui a souvent éteint Jérôme Rotten en Ligue 1, bien sûr. Claudio Cachapa sera avec nous. Ancien patron de la défense de l'Olympique Lyonnais avec Chris. Oui, Jérôme, tu confirmes ?
À Monaco, quand il nous a joué avec Monaco, il a souffert. Hein.
2004,
Il en a pris quelques-unes.
Il est champion quand même.
Ah bon, on leur a laissé ça.
Tu l'as laissé, toi. Toi, t'avais d'autres objectifs. Là, voilà.
On leur a mis 7 buts en 2 matchs. Donc.
On va parler de la saison de Lyon, bien sûr, avec lui. On va évoquer Pierre Sage, qu'il connaît, pas mal d'individualités, l'évolution de Ryan Cherki, de Barcola, qu'il a vu faire ses premiers pas à Lyon avant de rejoindre le PSG et l'équipe de France. Et puis Kevin Diaz, on parlait de Marseille avec Kevin, qui lui veut absolument voir Franck Hez sur le banc de l'OM la saison prochaine. Ouais. Voilà.
Bon, écoute, bonne émission, Nico. Amusez-vous bien, restez bien à l'écoute des RMC. Nous, on se retrouve demain pour clôturer cette magnifique semaine. Et demain, il y a toujours une émission excitante à partir de 18h le vendredi soir. Il y aura des surprises et on lancera le week-end, mais pas de Ligue 1 parce que c'est fini, mais plein d'actu, beaucoup d'actu demain à partir de 18h. À demain, bisous.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.